Bon, je crois qu'on peut commencer. Vous êtes déjà nombreux. Si d'autres arrivent, ils nous rejoindront dans le débat. Alors, moi, je voudrais faire quelques remarques pour commencer. Il y a une première remarque qui est un rebond par rapport à quelque chose qui s'est dit hier. Et la structure de la phrase est quand même intéressante. Ils me font passer pour un insoumis. Sous-entendu, ils mettent sur moi une négativité, quelque chose qui ne va pas. Et je dois donc m'en défendre. Et voilà comment il faut que Bernard se défende d'être un insoumis. Mais moi, je pose la question, pourquoi est-ce qu'il faudrait être soumis? Est-ce qu'il y a une obligation de soumission? Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la citoyenneté? C'est une vieille notion chrétienne, ça. Hein, c'est une notion chrétienne. C'est la notion d'obéissance. C'est dans saint Paul. La femme obéit à son mari. Les enfants obéissent à leurs parents. Les ouvriers obéissent à leur patron. Dans la Déclaration des droits de l'homme, je ne me rappelle plus le numéro de l'article, mais il y a le droit de résistance à l'oppression. Et ce n'est pas étonnant que ça ait été dans la Déclaration des droits de l'homme, en 1789. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'était une inversion des rapports sociaux et l'introduction de l'idée d'émancipation et de lutte comme étant une idée légitime. Voilà. Alors, je pense qu'on est en régression, n'est-ce pas ? On est en régression et bientôt, le consensus sera une obligation constitutionnelle, peut-être. Hein, obligation de consensus. Voilà, je voulais dire ça parce que j'ai réfléchi à cette affaire d'insoumis. Moi, j'aime beaucoup l'expression « insoumis ». Hier, dans le film sur la résistance à Bilin, en Palestine, on voit bien comment une poignée d'Israéliens sont des insoumis. Et je rappelais qu'il y a eu quelques soldats et quelques officiers israéliens au cours des dernières années pour refuser d'aller faire la guerre en Cisjordanie. C'est des insoumis. Alors voilà, je voudrais mettre notre débat sur la responsabilité qui va toujours avec la liberté sous cette première remarque. Je voulais faire une seconde remarque à propos du film Les silences de la vallée qui, je crois, nous a tous bouleversés hier. Parce que ce qui m'a frappé dans ce film, moi qui par profession suis sur l'international et donc suis toujours obligée de me placer d'un point de vue panoramique, c'est évidemment que la crise du chômage en Europe, celle-là, celle que nous avons depuis plusieurs années, est directement liée à la sortie du sous-développement pour un certain nombre de pays du tiers-monde. Et que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus simplement nous dire, voilà, nous luttons, nous ne voulons pas de ce chômage, c'est de la misère, c'est une souffrance pour toutes sortes de familles, etc. Nous ne pouvons pas nous dire seulement ça, et donc nous ne voulons pas de ça. Nous sommes obligés de revoir les rapports mondiaux d'une manière tout à fait générale. Dans certains pays, le patron faisait allusion aux pays de l'Est. Les délocalisations en Pologne, en Tchécoslovaquie, etc. Mais nous savons bien, pour ceux d'entre nous qui avons été un peu dans ces pays, nous savons bien la formidable montée du niveau de vie que représente la croissance. Et par exemple, moi je connais peu la Chine, mais je connais très bien le Vietnam où je vais régulièrement. J'ai vu ce pays passer d'une misère inimaginable dans les années 80, mais inimaginable, à tout d'un coup une explosion de véritable bonheur social, parce que même s'il y a des inégalités, même s'il y a toutes sortes de phénomènes pervers, le bonheur des familles vietnamiennes, tout d'un coup d'avoir accès à un bien-être qu'ils n'avaient pas, à pouvoir le dimanche aller dans les petits restaurants en famille, ce qui n'existait pas il y a 15 ans, bon, c'est quelque chose qui est positif, avec encore une fois des effets pervers. Donc nous sommes obligés de remonter à une pensée globale. Nous ne pouvons pas nous contenter de luttes et d'analyses qui sont situées. Ça nous amène à des débats qui sont parmi les plus difficiles. Vous savez qu'il y a aujourd'hui tout un courant pour la décroissance sur le plan économique. Bon, beaucoup de gens sont très réticents naturellement. Je crois qu'il faut quand même aller voir ce qui se dit de ce côté-là, et sans parler d'une décroissance qui nous ferait revenir en arrière, des changements de vie sont inéluctables, à la fois pour protéger la nature et pour aller vers cette égalité mondiale que comme ça, intellectuellement, sentimentalement, dans la tête, nous voulons bien, mais qui, quand elles arrivent sous la forme d'un partage auquel nous devons contribuer, évidemment, paraît beaucoup plus douloureux. Alors, toujours dans ce film, le point de faiblesse insupportable du système qui était bien mis en lumière, c'était le pillage du savoir-faire. Hein, quand ils expliquent que les étrangers, je crois que c'était les Italiens, sont venus et ont piqué le savoir-faire. Bon, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Quelle protection? Quel droit? C'est extrêmement difficile parce que ça fait partie de ce qu'on appelle l'immatériel, bien que ça ne soit pas immatériel du tout. Les gens ont inventé des techniques par une accumulation d'expériences et de réflexions sur leur expérience. Et voilà, quand tout d'un coup, c'est capté et pour être exploité ailleurs, comment peut-on protéger ça? Évidemment, la protection ne peut être qu'internationale, absolument qu'internationale. Et puis, toujours dans le film, ce qui est dit par le comptable, rappelez-vous la séquence du comptable, quand il explique comment la compagnie américaine a imposé des salaires pour ceux qui sont là-bas, les patrons qui sont là-bas aux États-Unis, et pas seulement des salaires, tout d'un coup des exigences financières, on veut tant. Bon, naturellement, qu'est-ce qu'on voit une fois de plus? Ce qui nous manque, ce sont des règles internationales et une justice internationale. Mais nous avons à ça deux obstacles. Un obstacle, je dirais, technique et juridique, c'est la fameuse souveraineté des États, qui fait obstacle autant que possible à ce qu'il y ait des règles internationales. Les États ne veulent pas, parce que s'il y a des règles internationales, évidemment, ça les restreint eux-mêmes dans leur liberté. Donc, souveraineté des États, d'une part, et d'autre part, l'absence d'une culture politique internationale. Moi, au point où j'en suis de ma réflexion, je l'avais un peu dit l'année dernière, mais je ne fais que creuser ça, je suis convaincue que nous sommes sur un modèle complètement épuisé avec le compartimentage des sociétés en États-nations souverains et prétendument indépendants. Ils ne sont plus du tout, même pas les plus grands d'entre eux. Les États-Unis sont complètement dépendants actuellement de la crise financière mondiale. Donc, c'est fini ce modèle-là. Alors, comment on peut penser un nouveau modèle? C'est vrai que c'est de l'ordre de l'utopie, mais c'est l'utopie qui permet d'avancer et de projeter des choses qui un jour viendront. Je pense qu'il faut qu'on sorte de la culture exclusive de l'État-nation et qu'on entre dans une culture beaucoup plus difficile de la complexité dans laquelle nous appartenons à plusieurs communautés politiques. Et c'est pas elles ne sont pas exclusives les unes des autres. Nous appartenons à la communauté politique locale, nous appartenons à la communauté politique régionale, nationale, continentale et universelle. Parce que vous avez des problèmes qui se situent et qui ne trouveront leur solution qu'à chacun de ces niveaux. Et donc il faut se vivre comme citoyen en fonction des problèmes à chaque niveau. C'est une révolution culturellement ça, parce qu'on n'a pas du tout été habitué à penser ça. On a été habitué à penser la solution des problèmes à partir d'une identité unique qui était celle de la nation. Donc on est sur ces problèmes-là, et d'ailleurs c'est ça qui me permettrait de répondre, je ne vais pas le faire très longuement, mais à la question qui m'a été posée hier par quelqu'un à la fin du débat sur l'ONU, l'Irak, le rôle de la France au moment de la guerre de Bush. L'ONU est complètement en contradiction dans ses principes mêmes, puisque d'une part, elle pose le problème de l'égalité souveraine entre les États et les peuples. Ce qui est très beau, très, très abstrait quand même, mais qui pourrait devenir concret s'il y avait des terrains d'application. Mais, dans la même charte des Nations Unies, après qu'on ait parlé de l'égalité souveraine entre les États et les peuples, on nous balance l'article sur la composition du Conseil de sécurité, et vous en avez 5 qui sont absolument inégaux. Et on s'étonne ensuite de la crise des Nations Unies, mais elle était inéluctable, complètement inéluctable. Les rédacteurs ont pataugé dans leurs contradictions, n'ont pas su les dépasser, Et donc, on mit un peu le droit des peuples, un peu l'égalité souveraine entre les États, et puis les membres permanents, parce que quand même, on voulait garder l'hégémonie. On n'allait pas, bien sûr, on avait des grandes idées. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale, on ne voulait pas que ça recommence, donc il fallait bâtir un monde nouveau, naturellement. Et les droits des peuples, et les droits de l'homme, et tout ça, très bien. Donc, on a rêvé un texte superbe, et puis, on a mis petite saloperie, mais qui a de grosses conséquences, c'est qu'à l'intérieur de l'organe de décision, il y en a 5 permanents. Il faut voir ce que ça veut dire du point de vue de la philosophie de l'humanité. On a fait un texte dans lequel on a décidé que ça serait toujours comme ça. Ils sont permanents. Et comme la révision de la charte n'est possible qu'avec l'accord de ces 5-là, ils sont vraiment bien permanents. Donc c'est bouclé, c'est verrouillé. On ne changera le système qu'en faisant exploser la marmite. C'est-à-dire qu'il faudra créer une autre ONU, si on veut casser ça. Il faut un mouvement mondial formidable, on n'est pas encore là-dessus, loin de là. Voilà, quelques réflexions un peu décousues, mais qui rejoignaient des tas de choses qui se sont dites hier. Et maintenant, je voudrais rappeler que j'ai reçu des petits papiers. J'ai reçu des petits papiers qui demandaient des choses très différentes, très variées, et dont je vais essayer de tirer des éléments de débat ordonnés, d'ailleurs en redonnant la parole aux intéressés éventuellement. Il y a un petit papier très général qui me dit « Je sais que je suis de gauche, et ce qu'est la gauche, je me demande qui est de gauche aujourd'hui et pourquoi. Mais je ne suis pas sûre d'être là demain. » Alors, je ne sais pas si cette personne est là, c'est Sylvie. Voilà, bon, je pense que ça, on y reviendra sans cesse, parce que c'est la question qui nous obsède, naturellement. Parce qu'on a connu, on a traversé des années de gauche, de droite. C'est bien ça, notre problème. Et donc, on ne se retrouve plus, il faut refonder complètement les choses. Il y a une autre question qui est générale aussi, mais dont je vais vous dire que je pense qu'on l'abordera davantage demain. Elle est très intéressante. Aujourd'hui, il y a un problème de fond autant que de forme, de point, les médias et les moyens de communication. À quand une télé de gauche et une de droite, point d'interrogation, sans fausse neutralité, ni côté officiel insupportable? Alors, ben oui, c'est l'un des éléments centraux de la question politique et de notre activité de citoyen. Nous ne pouvons pas, c'est impossible, agir si nous n'avons pas un minimum d'écho. Alors, j'ai fait allusion hier. Il y a les télés, les moyens audio, ce qu'on appelle les moyens audiovisuels. Les télés, les radios, les grands journaux. C'est vrai que là-dessus, nous nous sentons, nous les citoyens, très impuissants. Il y a un pouvoir là, formidable. Et on le voit bien, je me souviens de l'affaire des sans-papiers de Saint-Bernard, il y a maintenant 10 ans, 11 ans, tu étais là avec moi, Jacques, on galérait là-dedans. Et pendant ce mois d'août, voilà que les journaux ont fait du bruit avec ces sans-papiers enfermés à Saint-Bernard, beaucoup de bruit. Et quand Jean-Louis Debré a fini par envoyer un bélier pour casser la porte, ça a été vraiment un événement fort. Et on rencontrait à ce moment-là des quantités de jeunes journalistes qui étaient très intéressés, qui ont fait des papiers, etc. Et un jour, j'ai dit à l'un d'entre eux, mais écoutez, nous, ça fait des mois, la coordination qu'avait faite Ariane Mnouchkine, là, le comité de soutien, fonctionnait depuis des mois. On n'avait pas beaucoup d'échos, on avait beaucoup de mal à faire passer un papier à droite ou à gauche. Pourquoi tout d'un coup, au mois d'août, vous en parlez comme ça? Et un des jeunes journalistes m'avait dit « Mais madame, parce que nos rédacteurs en chef sont en vacances. » Donc, ah, ça c'est le baptême. Alors, petite remarque comme ça d'un jeune journaliste me disant ben, on a eu un espace de liberté tout d'un coup, on était moins soumis, on n'avait pas le rédacteur en chef, n'était pas là pour qu'on lui dise voilà ce qu'on va passer demain, etc. Et je me suis rendu compte à ce moment-là de la force de la dictature des médias. C'est-à-dire que ces jeunes journalistes, ils étaient profondément d'accord avec nous. leur rédacteur en chef peut-être en partie aussi, sauf que le rédacteur en chef, il joue sa place. Hein, par rapport aux financiers, aux organismes de contrôle. Voilà. Alors aujourd'hui, pour répondre à la question de notre ami sur pourquoi pas une télé de droite et une de gauche, bon, je ne sais pas, il y a eu l'expérience des radios libres, on en a tous le souvenir d'ailleurs, c'est pas loin et c'est pas fini. Et Jacques rappelait hier ce qu'avaient été les téléclubs à une époque où la chose démarrait, suscitait de l'enthousiasme et où il y avait une sorte de jeu politique citoyen par rapport aux émissions. On en est très loin. Simplement qu'il y a, je le rappelais hier, il y a quand même le dessus et le dessous. Le dessus, c'est ces moyens audiovisuels qui fabriquent, c'est vrai, du consensus et qui, malheureusement, on l'a bien vu avec les élections, ont une influence capitale. Mais il y a quand même le dessous, c'est-à-dire maintenant aujourd'hui Internet, avec toutes sortes de choses. Et nous aurons demain le film de Thomas Lacoste pendant cet atelier politique. Et Thomas sera là et il pourra nous dire qu'est-ce que c'est ce projet-là, qu'est-ce que ça voulait dire. Et il nous rappellera, je n'ai pas les derniers chiffres, que quand il a fait, vous savez, il a fait un livre qui s'est appelé « L'autre campagne » quelques mois avant les présidentielles. Et puis, après avoir fait ce livre, qui était une série de contributions sur les grands problèmes, il a eu l'idée de faire un film. Il a fait ce film, il a mesuré le succès de ce film qui était sur Internet. Il a eu plus de 500 000 visionnages. Et après, entre les deux tours, il a refait un petit film qui s'est appelé « Réfutation ». Donc voilà, ça c'est bien des moyens audiovisuels d'aujourd'hui formidables, qui touche quand même beaucoup de gens. Il ne faut pas se tromper sur l'impact de ça. Simplement qu'il faut poser la question, comment on fait la jonction, et puis le différentiel de pouvoir. Parce qu'en attendant, évidemment, TF1 est plus puissant que ce que peut faire Thomas Lacoste. Alors moi, je propose que cette question-là, si vous le voulez bien, on la reporte à demain, puisqu'on aura ce film et un débat sur ce film et donc sur ces moyens-là. Il y a eu une question générale sur la responsabilité. On va y revenir. La notion de responsabilité et l'évolution de l'action politique, les moyens d'action aujourd'hui. Ça, je vais tout à l'heure dire un petit mot là-dessus, puis on va en parler à propos de cas concrets. Et il y a eu deux questions sur lesquelles je voudrais qu'on reste un petit moment. Elles sont importantes et que Jacques nous dira son point de vue, puis vous reprendrez la parole, qui étaient des questions sur ce qui nous lie aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire des subventions, de la politique culturelle, de l'avenir du ZES, etc. Il y a quelqu'un qui m'a mis décentralisation, place et logique des collectivités dans l'action culturelle, et quelqu'un d'autre qui a mis quels outils pourrait-on proposer aux politiques pour l'aider à choisir les structures qu'il doit subventionner et pour définir l'ordre d'importance des montants attribués. Des lois cadres définissant les conditions d'attribution de subventions serviraient-elles à quelque chose ? Alors, des lois cadres serviraient-elles à quelque chose ? C'est une vraie question de fond. Il y a un article dans le cahier du Zest, là, page 59, de Jean-Michel Lucas, qui reprend cette question, qui est une vraie question très difficile. Mais c'est une question à deux niveaux, parce que la première chose, c'est de rappeler aux politiques que l'argent qu'ils ont à distribuer n'est pas leur argent, c'est notre argent. Ça, c'est très important. Moi, je me souviens d'un débat, c'était encore à propos des sans-papiers, à Lille, à l'Université de la Culture. Il y avait un adjoint de Montroy qui était là. J'ai oublié son nom, ça tombe bien. Et ce monsieur n'était pas très d'accord avec le débat qui se déroulait. Il y avait un sociologue, moi-même, et puis quelqu'un d'autre. Et on avait des positions assez fortes et assez radicales sur la question de l'immigration. Et notamment, j'avais dit que l'État était le résultat de contingences historiques et qu'on ne pouvait pas fonder les rapports humains là-dessus, et notamment les répressions. Alors, il n'était pas content. Il m'avait dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que la contingence ? L'État, c'est pas contingent. L'État, il est là, c'est naturel. Bon, alors, le débat était un peu difficile. Et puis, le président de l'Université de la Culture, qui est un homme très engagé, mène toutes sortes de luttes. Et évidemment, il fait tout ça avec des crédits de la municipalité. Et après, il y avait un déjeuner. Alors, on est allé déjeuner et l'adjoint à la culture a dit au président de l'Université Culture « Tu comprends ? Je te donne de l'argent et tu nous attaques. » Voilà. « Je te donne de l'argent et tu nous attaques. Ben, le contresens était quand même écrasant. Hein. Il ne lui donnait pas de l'argent. Il y avait une répartition d'argent public. Ça n'a rien à voir avec « je te donne de l'argent ». Et tu nous attaques. Alors ça veut dire que si on reçoit de l'argent public, c'est fini. On n'est plus citoyen, on ne doit plus s'exprimer. On est complètement otage. Donc vous voyez bien que là, il y a une perversité incroyable qui est dans la tête des gens et qu'il faut leur sortir. Bon, et puis après, au deuxième niveau, il y a la question très difficile. Si nous étions aujourd'hui l'Assemblée autoproclamée d'un nouvel État et qu'on ait un budget et qu'on ait une page culturelle, comment on ferait ? C'est pas si simple.
Je veux rebondir. Cette histoire de l'argent, comme ça, oui. Y a une autre question qui se pose d'ailleurs dans ces journées, qui oppose le subventionnement à, on pourrait dire, l'alternative, quoi. Comment je vais prendre ça pour ne pas me faire trop d'ennuis ? De la même manière que le politique dit « je te donne de l'argent », donc tu fermes ta gueule, en gros, tu fais... il y a des citoyens qui pensent que cet argent, c'est moi qui le reçois. Pas l'action qu'on mène avec. Et ils le pensent d'autant que souvent, notamment, quand, par exemple, je donne un exemple au hasard, quand c'est un groupe de rock et qu'il signe un contrat avec une multinationale et qui donc il n'est pas dans le subventionnement, il est dans le privé. Et donc il a un comportement vis-à-vis de l'argent de la subvention publique différent, puisque lui il considère qu'il a bien ramé pour être signé par une maison de disques et pour pouvoir être trouver une autre définition pour créer, pour s'en sortir, quoi. Et souvent et particulièrement, celui-là nous reproche à nous d'être subventionné, c'est-à-dire d'être subventionnable. C'est souvent un réflexe que je qualifierais entre guillemets de gauchiste. Alors, j'avais souvent expliqué ça, j'avais dit, on me disait, mais pourquoi tu pourrais faire un festival sans subvention ? Rien que par peut-être les lois du commerce, c'est-à-dire du nombre. Donc il faudrait que ça soit beaucoup plus populaire. Et donc que les recettes soient conséquentes et que du moins, et qu'on n'ait pas besoin de subventions. Mais depuis le début de l'action qu'on a menée ici, ça ne m'a semblé pas du tout citoyen, ça ne m'a pas semblé lucide politiquement. Ce qui me semblait lucide, c'est d'interpeller les pouvoirs publics, les responsables publics, nos élus, quoi, en face de la problématique de la culture, de l'artistique, de la création artistique, et que ça les regardait, quoi. Que des actions de citoyens qui soient porteuses de... d'événements d'économie, mais pas que d'économie financière, d'économie éducante, philosophique, ça fasse partie de leurs prérogatives. Alors c'est bien là aussi que ça blesse, parce que souvent l'élu, en tous les cas, nous considère comme concurrent et non pas comme co-élaborant. À partir d'un degré de toujours entre guillemets, d'efficacité, l'élu se sent, il me semble, certains élus sans doute, pas tous, je suppose, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion d'expérimenter cette fonction d'élu. J'ai essayé, mais je me suis fait ramasser. J'ai essayé de me faire élire à Uzest, mais j'ai eu... On avait un comité de soutien de 60 personnes, j'ai eu 20 voix. Bon, mais non, mais c'est qu'un début. Voilà, non, tout ça pour dire que dans plusieurs sens, de tous les sens, la problématique de subvention est assez complexe aujourd'hui. C'est un peu aussi, par certains côtés, perçu comme on file du pognon à des feignants qui sont planqués, quoi. Voilà, ou qui sont... Il y a un peu ça, quoi. Alors que d'autres, courageusement, ont bien ramé pour être signés par une maison de disques et s'en sont sortis sans dépenser l'argent public, quoi. Voilà. Alors là-dedans, bien sûr, que, parce que c'était hier soir qu'on m'a reproché ça. Oui, mais toi, tu te sers de subventions, tout ça. Alors, il m'a pas dit à quoi ça servait, ces subventions. C'était presque comme si c'était moi qui les avais dépensées dans ma poche. C'est vrai que j'ai changé de voiture, j'ai déjà dit, mais... Voilà, quoi. Donc c'est assez compliqué. Et il faudrait peut-être encore mieux l'expliquer. Il faudrait que les gens qui m'ont posé cette question hier soir soient là ce matin. Mais ils ne sont pas là. Parce que le matin, ils ne sont pas souvent. Ils sont moins là le matin que le soir. Mais ça aussi, c'est des problématiques qu'il faut affronter. Et ce n'est pas pour rien qu'on est à Sorres, finalement. Qu'on a quitté Uzest pour essayer justement d'aller au-delà des différences et des sociologies, quoi. Parce qu'entre chaque village, c'est assez différent. Entre chaque petite région aussi, c'est différent.
La difficulté, elle est beaucoup... Comment on prend en compte le qualitatif ? Parce que... La dictature de la quantité fait que on prend en compte combien vous avez fait de recettes, combien vous avez de sponsors et combien vous avez fait d'entrées. Donc du nombre, on aligne des nombres. Et si c'était un bonheur inouï que les gens avaient eu, un bonheur qu'on ne rencontre jamais ailleurs, un bonheur fou, un moment comme ça dont on se souvient toute une vie. Ça, évidemment, c'est très difficile à prendre en compte, mais personne n'ose se lancer là-dedans. Bon, moi, je crois que la solution, et il n'y en a pas, donc il n'y a que faire avec. C'est le politique, on parlait de ça avec Jacques tout à l'heure, il me disait, mais le politique, il donne ses subventions sur des critères politiques. Voilà. Et nous, les citoyens, nous devons contrôler le politique avec nos critères politiques à nous, qui ne sont pas les mêmes que les critères du politique.
Moi, j'ai une petite phrase là d'un metteur en scène que je trouve très intéressant, de Matthias Langhoff. Vous savez, c'est un Allemand qui a été formé avec un autre, Manfred Karge, comme jeune régisseur de théâtre au Berliner Ensemble à Berlin. Sous Brecht. Et puis en 1971, pour l'anniversaire de la Commune de Paris, le Berliner est venu, parce que la femme de Brecht avait recueilli de lui, « Si tu vis encore au moment de l'anniversaire de la Commune, va avec la troupe à Paris. » Alors, à quelques-uns, on l'avait donc favorisé leur accueil. Ils ont joué la mère à Nanterre, ils ont joué les jours de la Commune à Saint-Denis, et ils ont joué une pièce non jouée encore de Brecht, Le commerce de pain, Brotladen, à Aubervilliers. Et donc, c'est là que j'ai connu ces deux messieurs que je continue de connaître et de fréquenter. Et Matthias Langhoff, il a écrit un livre sur la gestion d'un théâtre, quand il a été candidat au théâtre de Genève, qu'il n'a pas eu. Moi, il me semble que c'est peut-être le plus beau livre qui ait été écrit sur comment on dirige, où on devrait, où on espère, où on choisit d'animer un théâtre. Et il y a une phrase là que j'ai copiée, c'est curieux, quand tu as dit ça tout à l'heure, j'ai pensé à elle, alors je fouille dans mes papiers. Les subventions ne sont pas là pour que le théâtre existe, mais pour que la population puisse goûter au meilleur théâtre, tant il est vrai que le théâtre doit faire partie des joies auxquelles chaque citoyen a droit. Les théâtres subventionnés sont les seuls à pouvoir assumer la fonction de projection de l'esprit d'une société, indispensable à la communauté pour se comprendre elle-même. Et je trouve que c'est très important, mais ça rejoint ce que disait tout de suite Luba. C'est pas à lui que va la subvention. Il n'en devient pas propriétaire. C'est au travail qu'il fait. Et je crois que c'est cette question-là qu'il faut poser avant tout en avant. Si autrement on dit c'est à lui, qu'on le veuille ou non, au bout d'un moment, un propriétaire, ça aime bien sa propriété. Et ça transforme même son attitude généreuse d'avant en attitude de propriétaire qui n'est jamais généreuse. Et c'est ça qui est souvent aujourd'hui. Et qui fait que certains hommes libres en rentrant dans une structure deviennent prisonniers de la structure et changent leur mouvement de pensée. Moi, je trouve que quand il dit ça, là, les subventions ne sont pas là pour que le théâtre existe, mais pour que les populations puissent goûter au meilleur théâtre. Ça, c'est une question fondamentale. Autrement, on ne s'en sortira jamais. On est dans un monde en miettes. Chacun, pour s'en sortir, choisit son voisin comme ennemi. Et dans tous les problèmes, c'est comme ça. Hein. Et plus on discutera de ça, plus on s'enfoncera. C'est toujours l'autre. Jamais soi. Et dans le domaine artistique, alors là, on a tellement de goûts différents. Non. Hein, on a tellement de goûts différents. Et souvent, je prends un petit exemple. Puisque j'étais au théâtre Debussy avant-hier, on a réussi à le faire acheter par l'État. Alors, on est content quand même, parce que comme c'est un théâtre qui a 112 ans, vous voyez, quelquefois, il faut y mettre des béquilles. Et ils sont en train de les mettre. Et au moment de l'achat, la question s'est posée, est-ce le département qui l'achète? Et le président du département, c'est le président du Sénat, alors je le connais bien. Hein, ou est-ce l'État? Moi, je faisais partie de ceux qui poussaient pour l'État. Finalement, on a gagné. Mais j'étais content après, parce qu'il y a eu un petit repas sur place, un petit restaurant là-bas, où étaient réunis tous les gens qui étaient concernés, quoi. Et alors, le président du Sénat, président du Conseil général, a dit, alors, donc, si on l'achète et qu'on est propriétaire, il est bien évident que nous avons acquis en même temps le droit de choisir parmi les programmes. Alors, il faut bien dire que Donadieu de Vabre, qui n'a pas laissé un bon souvenir, ce jour-là m'en a laissé un, il s'est levé, il a dit, mais c'est de la folie de dire ça. Mais c'est une folie qui existe partout. Elle existe chez certains artistes, elle existe chez certains pouvoirs, elle existe chez une partie du public. C'est un problème de société globale. Il ne faut pas chercher de bouc émissaire, il faut se taper le problème en profondeur. C'est la place de l'art dans la société. Autrement, on est comme Maurice Druon. Quand, pour ceux d'entre vous qui ont un cheveu blanc, comme je disais hier, quand Maurice Druon a dit, bon, enfin, ils ont un culot, ils font du théâtre contestataire et ils tendent la sébile. Vous ne vous rappelez pas de ça pour certains d'entre vous? Il y a eu une manifestation qu'avaient animée Ariane Mouchkine et Roger Planchon, gigantesque à Paris. Mais ça continue d'exister, ça. En vérité, il y a une contradiction à l'intérieur de l'être humain, quoi. Comme dans la société, il faut donc en traiter contradictoirement. Contradictoirement. Alors, c'est pas facile, mais si vous avez rencontré un problème facile, dites-le-moi, étant donné mon âge, j'ai plus beaucoup de temps et j'aimerais bien avoir, comment dirais-je, la solution. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout à l'heure, avec Monique, et puis avant avec son mari, j'ai dit une phrase qui, moi, me ravit. Elle est douloureuse à lire, mais en même temps, elle est forte. C'est Scott Fitzgerald. Il dit que la marque d'une intelligence de premier plan est qu'elle est capable de se fixer sur deux idées contradictoires sans pour autant perdre la possibilité de fonctionner. Mais ça, c'est fondamental. Vous savez, Aragon, il disait que la politique, c'était le ciel et l'enfer. Mais si c'est le ciel et l'enfer, soufflons sur le ciel et assommons l'enfer. Mais il le disait avec ironie. C'est une tragédie que ce soit ça. Mais en même temps, c'est l'écho d'une contradiction. Hein ? Et pourtant, faut bien fonctionner. On le sait bien au niveau de sa vie quotidienne. Pourquoi ce ne serait pas pareil dans un théâtre ou dans un pays ? Donc, est capable de se fixer sur deux idées contradictoires sans pour autant perdre la possibilité de fonctionner, on devrait par exemple pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir et cependant être décidé à les changer. Moi, je trouve que cette phrase, qui est forte, très très profonde, mais on devrait sans arrêt y songer. Mais à mon avis, c'est ces questions-là de philosophie, de traitement de la pensée qui doivent être mises en avant, et puis après, il faut essayer de les intégrer. Moi, je pense à un roman d'Aragon qui s'appelle Le fou d'Elsa. Peut-être plusieurs d'entre vous l'ont lu, en tout cas ceux qui ne l'ont pas, ils ont perdu un bonheur pour leur vie. Hein, et ben, au moment où les rois très catholiques ont renvoyé, de la manière que vous savez, les morts, c'est-à-dire les morisques, c'est-à-dire les arabes de l'époque, et les juifs d'Espagne, eh bien, il y a une phrase dans le roman que traite Aragon, il dit « Chacun était rendu à son coin, n'est-ce pas, et ne connaissait que les petites difficultés qui se présenteraient entre lui et son voisin pendant la journée. Tout se passait là. » Et il disait et plus personne ne chante. Et d'ailleurs, si quelqu'un chante, personne n'écoute la chanson. Moi, quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit, tiens, c'est comme dans mon HLM. Vous voyez ? Non, je dis ça parce que des fois, on dit c'est nouveau. Un peu comme l'humanité. Hein. C'est comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est ces questions de principe sur lesquelles il faut distiquer et dont il faut, comment dirais-je, s'imprégner. Mais en art, il n'y a pas de démocratie. Le suffrage universel n'existe pas en art. On se disait en voiture en venant ce matin, quand Beckett a été édité, d'ailleurs par un éditeur français, hein, la première vente de livres, 36 livres. Alors le monsieur ou la dame qui dit « moi je compte », ben elle compte, alors Beckett est haut, allez, en vacances. Ben, vous vous rendez compte? Mais c'est comme ça qu'on raisonne aujourd'hui. En vérité, on veut nous transformer en gestionnaires comme on gère une entreprise. Et le film d'hier soir nous a montré comment on gère et comment on tue en même temps ou comment on massacre, et bien c'est pareil autrement. Sauf que ça n'a pas l'air si dangereux pour le commun des mortels de tuer une pièce que de tuer une personne. Encore qu'aujourd'hui, avec la télé, on voit bien qu'il y en a pas mal de gens qui n'hésitent pas. Vous voyez ? Mais c'est ces questions-là qui moi, je trouve, sont... Alors, je vais vous prendre un exemple, ça a des conséquences politiques. Quand la décentralisation a été posée, immédiatement, les gens de théâtre ont été contre la décentralisation. Parce qu'il y avait un certain consensus au niveau de l'État, vous voyez ? Et puis, il était assez loin, donc ça les garantissait du point de vue de leur liberté. Dès qu'ils arrivaient près de l'administration communale, qui leur donnait de l'argent, il ne faudrait pas dire le contraire, le budget des collectivités locales est plus important que celui de l'État pour eux. Mais le maire, quand il sort le matin dans la rue, il cause à quelqu'un qui a été au théâtre hier soir, il dit, t'as vu, ils sont folingues, il ne faut pas leur donner l'argent. Hein ? Tandis que le ministre de la Culture, quand il sort dans la rue, d'abord il est en voiture et il a un garde du corps, mais personne ne vient lui dire ça, quoi, vous voyez ? Hein ? Alors, ils se sont dit, si on n'est pas décentralisé, on continue d'être protégé. En ce sens, j'étais en désaccord avec eux. Le problème se pose, il faut le vivre et l'affronter. Autrement, il ne se résoudra jamais. Et les quelques cas hier que je citais, qui sont dramatiques d'une certaine manière, eh bien, si on ne les affronte pas, ils existent. Il y a une manie chez une, dans la dimension, dans l'approche de la démocratie chez nombre de gens, cachant le problème et ça ira bien. Ben non! Ou si ça ira mieux dans l'instant, ça ira beaucoup plus mal le lendemain. Donc la décentralisation a mis à jour à la fois des problèmes heureux et puis des problèmes malheureux. Eh bien, faisons comme Fitzgerald, là. Coltinons-les en essayant de continuer à fonctionner quand même, vous voyez. Mais ça sera de plus en plus difficile si les choses ne changent pas. On en parlait hier soir. Maintenant, le budget de l'État, vous savez, c'est la loi La Loft, là. Ce n'est pas une mauvaise chose quand on la lit comme ça. Et c'est vrai que ça peut être une bonne chose, c'est comme tout, hein, à condition de s'en servir dans le bon sens. Mais j'avais une petite expression qui me trottait dans la tête. Par exemple, un équipement culturel, dans le temps, les grands équipements, les crédits étaient à l'avance différenciés, vous voyez. C'est-à-dire que les grandes familles de fonctions à l'intérieur de la fonction générale avaient un crédit d'assuré, vous voyez. Alors, ce n'était pas non plus une mauvaise chose, parce que même dans un équipement artistique, c'est toujours l'artistique qui trinque. Toujours. C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc, c'était pas mal d'avoir des crédits comme ça. Mais ils ont décidé, vous voulez la liberté, on vous donne la somme globale et vous vous débrouillez. Donc, vous avez la liberté de changer, de retirer un peu là et de mettre un peu plus là. Hein ? Mais en même temps, ils ont employé une expression... C'est la fongibilité asymétrique. Vous voyez ? Alors quand vous voyez apparaître ça, vous riez, quoi. Vous avez raison, continuez de rire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la fongibilité asymétrique ? Les crédits sont fongibles. Tiens, cette année, on mettra moins sur ça, on mettra plus sur ça, comme dans notre vie, d'ailleurs. Hein ? Bravo ! Sauf un endroit. Sauf un endroit. Les salaires. C'est-à-dire que vous pouvez les diminuer et mettre l'argent ailleurs, mais pouvez pas les augmenter et rajouter des emplois. Donc, finalement, cette gestion séduisante et en partie très utile et très intéressante, elle a un secteur où il n'y a rien à faire. Il ne cède pas, au contraire. Il renforce la tutelle. C'est le problème
de l'emploi, le problème du travail, le problème de la liberté sur le plan des hommes et des femmes. On en revient toujours là, voyez. Et c'est pourquoi, moi, sur le film d'hier soir, que je trouve magnifique, je trouve que vraiment, il mérite d'être félicité. Mais il y a une question qui m'a frappé, qui n'est pas venue dans la discussion. À mon avis, c'est la question fondamentale. C'est les droits des travailleurs dans la gestion des entreprises. Parce qu'ils veulent bien vous consulter, mais après. Ils veulent bien vous donner votre avis, contre ou pour, mais après. Mais dans l'élaboration, la seule limite ou correction au marché, indépendamment des mesures nationales, européennes et internationales, là-dessus on pense tout à fait pareil avec Monique, mais c'est quand même que ceux qui sont les premiers concernés, ils puissent dire leur mot, mais un mot réel. Et aujourd'hui, comme hier, je disais que le travail, c'était une question centrale, il fallait l'aborder. Beau le travail humain, mais la place du personnel, des salariés, de l'ouvrier au cadre, dans leur espèce de pouvoir à l'intérieur de l'entreprise, et c'est pas facile à régler, et c'est pas facile, mais faut se la poser, elle est fondamentale. Et ça fera bouger beaucoup de choses. Parce qu'on peut avoir de bonnes idées à l'extérieur, même de dire, et j'en le disais hier soir, si on changeait d'ordre du jour, ça pourrait corriger, d'accord, mais on retrouvera toujours celui qui a le pouvoir et celui qui ne l'a pas. Et c'est dans l'entreprise qu'un des cœurs se trouve, vous voyez. Et c'est très, très important. Et regardez le pouvoir financier, ce film, il est étonnant de ce point de vue. S'il n'y avait pas la crise actuelle avec les baisses de bourse qu'on lit tous les jours dans les journaux, fussent-ils de droite ou de gauche, hein, eh bien, regardez le pouvoir financier hier, je trouve ce film. Quelqu'un disait hier, il y a 40 ans, c'était pareil. Ça n'est pas vrai. C'est un film qui est entièrement inséré dans la réalité d'aujourd'hui, dans son mouvement. C'est une sacrée, je dirais pas leçon, parce que surtout Trigat n'est pas un homme qui donne des leçons, il n'y avait qu'à regarder le tact, l'intelligence avec laquelle il participait au débat, mais c'est une expérience extraordinaire, ce film, y compris du côté des patrons. Vous voyez ? Moi, je pense toujours que le MEDEF connaîtra une crise. Ben, hier soir, j'ai vu un patron qui est du MEDEF, mais qui n'a vraiment pas envie d'y rester, en tout cas, qui n'ose pas le dire. Il dit, me faites pas dire ça, qu'il dit. Mais il dit. Vous savez, alors, ça dépend comment on est. On entend, il ne fait pas me dire ça. Ah, c'est bien, patron. Mais il dit. Ah, c'est un patron qui réfléchit d'une autre manière. Vous voyez bien, ça y est, c'est pas le même événement. Alors, ce film, de ce point de vue, c'est un petit peu une machine artistique à faire réfléchir, quoi. Mais comme je suis bavard, je me tais.
Bon, je voudrais que nos amis qui sont là nous disent un peu sur cette question, comment gérer une politique culturelle, les subventions, qu'est-ce qu'on fait, le rôle de qui.
Bon, c'est juste, c'est une chose que connaît bien Jacques Ralit, c'est le Festival d'Avignon. C'est pas pour revenir toujours à ça, mais quand même, ça sert un peu de référence pour la réflexion, qui est donc créée en 1947, c'est les 60 ans cette année. Et le Festival d'Avignon, comment on peut subventionner au départ, la mairie d'Avignon a sorti pas mal d'argent en 1947. Ils sont encore en très grande difficulté. Ils sont dans les ruines de la guerre. Et ils subventionnent quand même cet homme, Villard, qu'ils ne connaissent pas vraiment. Sauf que je pense qu'ils se fondent sur deux critères, au moins. Ça peut servir de réflexion à voir comment on subventionne ou pas. C'est que Villard arrive et voit le maire d'Avignon, le docteur Ponce, mais il y va avec la garantie d'un homme qui s'appelle René Char, qui est un très grand poète, et résistant comme le maire d'Avignon, et d'un couple qui s'appelle Christian et Yvonne Zervos, qui sont des marchands d'art suisses, mais qui ont un très grand crédit aussi artistique. Donc ça veut dire que la garantie de la subvention vient quand même d'une garantie artistique de haut niveau, et qui a une sorte de prestige national. Je dirais même pas seulement national, dans le cas de René Char. La deuxième chose dont je crois me souvenir, c'est qu'il y a quand même des gens qui peuvent jouer un rôle dans la sélection des artistes, si on peut parler de sélection pour la subvention. Ce sont les critiques. C'est très important, les critiques. Parce que quand le Festival d'Avignon se crée, il ne faut pas croire qu'il y a unanimité autour de Villard et de ce qu'il fait. Ce n'est pas vrai du tout. Par exemple, on dit que c'est le succès public immédiat. Ce n'est pas si sûr. La moitié des entrées à Avignon 47 ne sont pas payantes. C'est un vrai bordel, pour employer un mot comme ça. Bon. En 48, la moitié, le tiers du conseil municipal d'Avignon a refusé la subvention parce qu'il fallait en rajouter. Et là, les gens ont dit, oui, mais on ne contrôle pas le programme, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Villard n'annonce jamais son programme à l'avance. Villard, Jacques le sait très bien, se refusait toujours à communiquer son programme au fameux comité qui était là, en principe, pour chaperonner. Donc, il y avait une partie du conseil municipal qui refusait la subvention en demandant des garanties et en exigeant de contrôler jusqu'au programme théâtral du Festival d'Avignon. Et là, il faut bien dire qu'en 47-48, il y a une chose capitale, c'est que dans la critique, comme du côté de Char, comme du côté des gens de théâtre, Char, Villard est un élève de Dulin, il y a tout un monde du théâtre autour, il y a Blin, il y a Serrault, il y a des gens comme ça, c'est la libération quand même, c'est l'éducation populaire. Donc il y a quelque part des fils, les gens sont différents, mais il y a des fils qui se croisent, où il y a un certain nombre d'exigences éthiques, artistiques. Et je pense que là, le critère de la subvention qui a beaucoup joué, c'est une sorte de rencontre entre des artistes, Char, des critiques d'art dramatique, ils ont joué un rôle très important et tout, et que c'est par rapport à ça que ce fameux rapport des forces dont on parlait hier, à un moment donné, a été suffisant pour que les résistances à la subvention, les divisions, les contradictions, les contestations soient surmontées. Et que maintenant, évidemment, avec le temps, on dit « mais ça a été un boulevard pour Villard ». Mais non, pas du tout. Ce serait intéressant que Jacques en parle. Et que donc, à un moment donné, quand l'art est authentique, il y a toujours une lutte terrible, à un moment donné, pour permettre à l'artiste d'être libre. Moi, je m'arrête là, mais je pense qu'une des plus gros, une chose des plus choquantes dans la question de la subvention par rapport à Uzeste, c'est sur la question de la durée. On peut toujours discuter de ce que fait Lubin un soir ou l'après-midi. Il y a quand même une chose qui est absolument indiscutable, c'est 30 ans quand même. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans? Je disais dans l'Humanité de ce que disait Portal à un moment donné. Ben, Portal, c'est pas René Char, mais quelque part, normalement, un élu devrait prendre en compte l'opinion de Michel Portal. C'est pas parce qu'il est plus connu que d'autres, c'est parce que quand même, il y a un travail artistique sur la durée d'un type comme Michel Portal, et ça, ça devrait compter. Et donc, l'idée de la durée, de la construction sur 30 ans, je pense que ça doit être une chose absolument déterminante dans le choix de la subvention. Voilà.
Merci, Charles-Louis.
Un tout petit mot, c'est sur le plan politique. Parce que l'époque que tu évoques, 47, c'est l'après-guerre. Alors, je quitte la culture, j'arrive à la sécurité sociale. Il n'y avait pas un rotin à cette époque-là. Pas un rotin. Tout était détruit. Enfin, moi, j'étais ado, je me rappelle. Eh bien, le gouvernement de l'époque, appuyé sur le mouvement de la résistance et le mouvement démocratique, il a créé, sous la forme mutualisée qu'on connaît, la sécurité sociale. Il n'a pas dit « j'ai pas le sou ». Il a dit « je veux la santé », parce que le peuple le souhaite. Mais il l'a fait. Quand Jules Ferry a fait l'école publique en 83, hein, il a fait la même chose. La bourgeoisie, elle a pensé qu'il fallait qu'elle ait dans sa force de travail des gens qui soient d'un certain niveau. Elle a fait l'école. C'était un besoin politique. Hein? Ben, aujourd'hui, on a l'impression que c'est ça qui manque. Non? Il faut donc bien arriver à avoir une pensée qui soit commune sans être, comment dirais-je, enfermante, hein? pour aller de l'avant. Mais c'est possible à condition d'avoir la volonté politique. Ça a l'air d'être bête de dire ça, mais c'est vrai. Et en vérité, la question qui est posée aujourd'hui, pour revenir au mot de responsabilité, c'est que dans quantité de domaines de la vie, il y a en ce moment une mise à jour, hein, mais qu'il faut pousser plus loin, et après une mise en œuvre de ce qu'on pourrait appeler des responsabilités publiques. Il y a le service public qui en est le cœur, mais il ne résume pas tout. Cette responsabilité publique, elle serait encore un cœur dans le cœur qu'est le service public, mais elle serait valable pour le secteur privé. Et je me souviens que quand on avait créé les États généraux en 1987, c'était ça l'idée. On sent sourdre cette idée de responsabilité. Alors bien évidemment, il faut la définir. Alors nous, on avait mis quelques points, on avait dit, la première chose, c'était l'audace de la création. Et là-dessus, je fais partie de ceux qui ne céderont jamais. L'artiste est premier, les marchands viennent ensuite quand ils viennent. C'est ça la question. La deuxième chose, l'élan du pluralisme. La société est plurielle dans ce domaine-là comme ailleurs, il faut le respecter. Troisièmement, quand on a dit ces deux choses-là, si on ne met pas de moyens de production, on est un hypocrite. Donc, obligation de production. Et ça, c'est une sacrée responsabilité publique. Non ? Et ça compte. Et en fait, quand on subventionne ou pas l'UBA ici, eh ben, on aide à produire ce qu'il porte comme audacieux créateur et ce qu'il porte avec des copains comme pluralisme en mouvement. Hein ? Mais une fois qu'on a produit, il faut encore que ça se diffuse. Donc, il faut qu'on ait une maîtrise de la diffusion. Enfin, il y en a marre de voir que quand un film sort et qu'on pense, étant donné son budget, qu'il aura du succès, ce qui est souvent le cas, mais pas toujours le cas, voir les aventures qu'arrivent à Hollywood en ce moment. Hein. Mais celui qui a beaucoup d'argent, il sort avec 1000 copies, et puis celui qui n'a pas beaucoup d'argent, il sort avec 3 copies, dans des salles qui ont peu de fauteuils, et les autres dans des salles qui ont l'immensité de fauteuils. Il y en a un qui a une surface d'exposition accompagnée de la publicité, l'autre qui a une niche d'exposition accompagnée de pas de publicité. Ben, faut corriger ça aussi. Donc, la maîtrise, quand je dis maîtrise, c'est pas la nationalisation, c'est pas ça. C'est une responsabilité publique. C'est une notion, comment dirais-je, nouvelle. Et puis, l'atout d'un large public. Et là, on retrouve le travail, on retrouve le salaire, on trouve les droits de l'homme, etc., etc., et tous les droits nouveaux qui ont été acquis ou qui sont encore à conquérir ou à élargir. Et puis après, la coopération internationale, c'est-à-dire la question qu'a posée tout à l'heure Monique, n'est-ce pas ? Mais vraiment, la question de la responsabilité publique. Et pour les artistes, elle dit une chose très forte, avec Char, avec Zervos et avec Villard. Mais Villard commençait seulement à l'époque. Mais j'en reviens à Beckett. Beckett, qui était un immense bonhomme, il n'était pas du tout connu. Donc là, ça ne jouait pas. Et il y a un éditeur, un marchand, intelligent, ça existe, hein, qui l'a pris. 36 volumes, vous vous rendez compte ? Quelle responsabilité personnelle s'inscrivant dans une responsabilité publique. Je crois qu'il y a un travail à faire de ce point de vue-là. Et là, à ce moment-là, on n'est pas seulement protecteur, on est promoteur. C'est-à-dire qu'on ne défend pas seulement quelque chose, on promeut cette chose. Et moi, ce qui me frappe dans la notion de diversité culturelle et dans la façon dont elle a été appréhendée par l'UNESCO, c'est qu'ils ont enlevé l'idée de promotion et ils mettent l'idée de protection. Ça ne suffit pas, la protection. Pour bien vivre, il faut inventer et marcher, en protégeant ce qui nous aide à inventer et à marcher. Mais si on se limite seulement à se protéger, et la grande stratégie sarkozienne ou autre, hein, c'est de nous enfermer dans la tâche de protection. Alors, je ne crache pas dessus, hein, vous m'entendez. Hein. Mais s'il lui manque la deuxième béquille, alors hier je disais que je boitais quand je n'avais pas l'ouvrier et l'artiste, mais là je ne boite pas, je tombe. Donc c'est une grande question celle-là, très grande question. C'est pourquoi qu'un atelier politique qui réfléchit à la responsabilité, sa définition, et puis ses exercices, comment dirais-je, concrets, voyez, ces exercices concrets, voilà un petit peu ce que je voulais dire. Quant à la critique, alors là, qu'est-ce que tu as raison, c'est quelque chose de phénoménal, mais où elle est la critique théâtrale, pour me limiter à ça aujourd'hui, où elle est? Il y a 4-5 journalistes, 4 ou 5, c'est tout. Les autres, ils font des notes d'après la publicité que font les équipes qui existent ou les êtres qui existent dans ces structures et qui travaillent comme travaille le marché. Vous voyez ? Et des fois, vous relisez, vous trouvez les mêmes mots, vous dites, tiens. Alors, vous pourriez dire, tiens, ils pensent pareil. Ce qui est pas mal, ça existe aussi, ça. Hein ? Faut pas en avoir peur. Mais ils pensent pas pareil, ils copient pareil. On fait du papier collé, vous savez, la copie collée, là. Et le rôle d'Internet n'est pas négligeable de ce point de vue. Parce qu'il y a des choses merveilleuses à arriver avec Internet, mais il y a aussi des choses dramatiquement dangereuse, vous voyez. Mais la critique, alors si la critique critique plus, hein, vous voyez, si l'œuvre est vulnérable constamment, mais où on en est? Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut faire attention de ne pas être seulement, comment dirais-je, réflexif, agissant et tout, dans la seule contre, dans la seule défense. Il faut faire la défense et l'attaque en même temps. Si on n'attaque pas, la défense, ça fait la ligne Maginot. Ça permet de contourner, oui. Voilà.
Merci, Jacques. Sur ce thème, parce qu'après, comme il y a eu encore une question qui élargissait, on va passer à la notion de responsabilité publique plus large. Mais sur ce thème des subventions, de la politique culturelle, est-ce qu'il y a encore des...
En fait, je voulais faire une remarque par rapport à l'idée de prendre en compte le qualitatif par rapport à des choses que j'ai entendues hier. À midi, il y avait le président de l'association USES Musical qui raillait un petit peu une élue locale qui avait dit « Mais elle est où l'école Luba ?» et qui avait ensuite dit « Mais en fait, il y a un jeune qui joue avec nous, il y a des gens qui sont passés à USES dans les années avant et qui ensuite, ça les a influencés. » Et bon, moi, j'ai trouvé ça un petit peu insuffisant comme discours, en fait, parce que ça présentait la chose comme si c'était bête de demander où elle est l'école Luba. Et en fait, à partir du moment où effectivement, on demande de l'argent public, il y a donc l'État qui a une certaine quantité d'argent à distribuer à des gens, il lui faut bien des critères pour choisir, pour dire, bah, je vais donner un peu d'argent là, un peu d'argent là. Et c'était juste pour dire que c'est aussi de la responsabilité, je pense, de l'artiste ou de Luba, ou de trouver les moyens de dire, bah, si on n'a pas une école entre quatre murs, comme Dulin ou d'autres, quand il parlait du théâtre, eh ben, on transmet quand même quelque chose, et à être assez inventif pour convaincre l'État que, effectivement, là, il se passe quelque chose. Mais ce n'est pas simplement de la responsabilité de l'État de dire, ah, ce mec est génial, il faut lui donner de l'argent. Donc, en fait, la responsabilité, elle est partagée. Et moi, j'ai trouvé ça juste un peu court parce que je voudrais bien savoir quels sont les outils, en fait, qui ont été élaborés pour, et qui peuvent servir à d'autres pour dire, bah, qualitativement, il se passe ci, il se passe ça, et ça pourrait vraiment servir à plein d'autres gens. Donc, voilà, ma question, c'est qu'est-ce qui a été...
C'est pas facile. La question de l'évaluation, c'est... quand on est dans l'action, les élus... ils ont besoin d'avoir une coquille visible, écrit école de musique. Et ça se passe comme ça ici. Il y a plein de petites écoles de musique qui pratiquent une garderie, qui est très visible du point de vue électoral. Ça se passe au niveau basique. Dans tous les petits villages, il y a des écoles de musique comme ça qui servent momentanément de garderie. Ce n'est pas inutile, les garderies. Ça permet à des parents de mettre leurs enfants et de les reprendre après. Donc c'est un peu ça, une école de musique. On peut voir ça. C'est pour ça que j'avais trouvé le mot. Je pensais que le mot conversatoire était peut-être mieux approprié que le mot conservatoire. Alors en même temps, en face de ça, on a essayé de dire aux élus, aux gens, mais écoutez, essayez d'approfondir un peu, regardez nos textes, regardez ce qu'on vous envoie depuis des années, comme de documents de presse, par exemple, sur l'historicité de 30 ans, sur voilà, le nombre d'artistes, des techniciens intermittents du spectacle qui sont devenus professionnels par USEST. C'est une somme considérable, c'est des centaines de personnes. Donc ça, c'est visible, c'est lisible. Le problème, on en revient aussi au niveau de la communication, c'est que quand on demande, un journaliste demande à ses élus, pose une question, l'élu répond, mais Luba n'a pas fait d'école. Point, ça s'arrête là. On ne lui demande pas à l'élu des détails. Par contre, à moi, on me demande des preuves. Sans arrêt. Voilà. Et donc, ces preuves, on ne peut pas faire que à la fois de l'action, de l'explication de l'action, de la justification de l'action et des preuves de l'action. On a déjà assez beaucoup de mal à laisser des traces. C'est-à-dire que l'éducation, ce n'est pas de la formation. L'éducation, c'est de la sensibilisation. On ne forme pas des clones, quoi. On ne forme pas des ressemblants. On incite à des actants, à des devenants. C'est un autre ressenti de l'élaboration de ce qui se passe dans le mouvement de l'éducation. C'est ce qui se passe dans le jazz. Comment Max Roach, par exemple, transmettait la musique en la jouant avec d'autres. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans des cours comme ça de musique où c'est justement, j'appelle ça de la garderie, quoi. C'est-à-dire, on fait des chiffres, il faut être rentable, c'est du visible, et souvent c'est du lisible et c'est du risible, quoi.
Je rebondis sur le visible et l'invisible. Le problème en France, c'est qu'on a aussi une vision administrative de la répartition des activités des territoires. Sauf que l'art, les courants artistiques, ça ne se crée pas selon la division administrative d'un territoire. Ici, on vient de partout. C'est-à-dire que ça repose la question politique que vous souleviez hier de l'identité unique et de l'altérité. Est-ce que les politiques vont comprendre qu'une société, ça se construit dans l'altérité ? Et les courants artistiques font... tous les festivals vivants, ne se limitent pas à un territoire. Ils ouvrent le territoire sur l'ailleurs. Et c'est cette ouverture qu'il faut que les politiques comprennent, c'est-à-dire le rôle. Et c'est pour ça que la question de savoir si la majorité d'une population, comme hier on a parlé de Blanc-Mesnil, est une fausse question. C'est est-ce que le territoire de Blanc-Mesnil, est-ce que tous les territoires locaux sont capables de s'ouvrir sur le monde ? Et c'est là la question de l'artistique. Après, sur le visible et l'invisible, ce que je trouve courageux dans la compagnie Luba, c'est ce combat pour interpeller les politiques à comprendre pourquoi ils donnent de l'argent. C'est pour les aider à comprendre. Et comprendre la question de l'artistique dans la société aujourd'hui. Et c'est la question du visible et de l'invisible. Parce qu'à un moment donné, il y a des tas de subventions qui sont données aujourd'hui, je vais prendre un seul exemple, et qui restent invisibles et dont on n'a pas le droit de parler. Je vais prendre l'exemple, il n'y a pas d'argent aujourd'hui pour la culture. Dès qu'une compagnie ou un orchestre pose un dossier dans une DRAC, on lui dit « il n'y a plus d'argent ». Et puis, il y a quelques mois, a été inaugurée la nouvelle salle Pleyel. Et quand on regarde rien que la presse, après, on téléphone au ministère, aux inspecteurs, pour vérifier si ce que dit la presse est vrai. Et ils nous disent « oui, malheureusement, c'est vrai ». C'est-à-dire que quand le Crédit Lyonnais a vendu la salle Pleyel, Catherine Trottmann a refusé de l'acheter. C'était 30 millions d'euros. Et c'est un privé qui l'a acheté. Et puis, on apprend que la salle Pleyel a été rénovée. Et que l'État a passé un contrat de 50 ans avec le nouveau propriétaire de la salle Pleyel pour louer la salle Pleyel pendant 50 ans, 5 millions d'euros par an, et majoré avec le coût de la vie. C'est-à-dire que l'État, là, a fait n'importe quoi au niveau de l'utilisation de son argent public. Et ça reste invisible, ça. Ça ne se discute pas. Et le propriétaire des pianos Pleyel qui a acheté la salle Pleyel a du coup licencié ses ouvriers de l'usine Pleyel parce qu'il a fait une énorme opération spéculative et qu'il n'a pas voulu investir dans son usine. Donc 80% des ouvriers ont été licenciés. Et ces questions-là ne se discutent pas. Et par contre, à tous les artistes, on va leur dire... Ça ne marche plus, ça marche. Donc voilà. Et moi, ce que je trouve de courageux dans la compagnie Luba, c'est qu'ils osent poser la question à quoi ça sert l'argent. Et je pense qu'il n'y a pas assez d'artistes aujourd'hui qui ont ce courage-là.
Oui, moi aussi j'organise un petit festival. Et on est parti du principe que les gens d'un quartier, ils sont tous artistes quelque part. Et on leur dit, à travers ça, je veux poser la question, quelle est la place du peuple dans l'art ? Et on leur dit, vous avez envie de dire quelque chose, vous savez faire quelque chose. Montez sur la scène et criez-le, faites-le, dansez-le, chantez-le, mais faites quelque chose, allez-y. Et j'allais, c'est des milliers de gens qui montent sur la scène. Et je vous donne un exemple, donc, des femmes du quartier, elles ont fait un atelier de couture avec un professionnel, et elles ont appris à coudre, et ça s'est terminé par... un immense, un extraordinaire défilé de mode. Et ce jour-là, ces femmes de quartier, ça n'intéressait pas grand monde, elles sont devenues des artistes. Et ce jour-là, elles se sont senties fières, elles ont été reconnues, elles ont été applaudies. Et je trouve que là, ça donnait une âme. Et on n'a pas fait appel à quelqu'un d'extérieur. On a poussé des gens en disant « Tu as envie de t'habiller, tu as envie d'être belle, vas-y, va voir l'atelier de couture. » Je vous donne un autre exemple. Parmi les gens les plus méprisés, les drogués, au Château Rouge, à Barbès 18e, tous ceux qui, le soir, dans les caniveaux, on leur a dit « Mais allez-y, montez sur la scène, vous avez quelque chose à dire. » On a fait appel à une artiste qui les a organisés, qui leur a fait jouer à tous ces gens qui habituellement sont rejetés. Et ils ont joué leur propre vie. Ils ont joué leur propre fantasme. Et ce jour-là, tous ces gens-là, ils sont devenus des artistes. Ils ont été applaudis. Et ce jour-là, ils ont trouvé une âme. Et depuis ce temps-là aussi, plein de gens dans la rue, quand on va faire le marché, on se dit bonjour. Et je trouve... Ouais, on a quelque chose là au fond, on a des tripes, on a envie de gueuler. Ben, pourquoi ce ne serait pas de l'art ça? Et quand on a donné la ils sont montés à 700. 700 qui sont montés sur la scène. Et pendant 3 jours, 3 soirs, 3 nuits, ils ont animé, ils ont hurlé, ils ont crié, ils ont dansé. Ce jour-là, ben, un tas de jeunes qui n'allaient plus à l'école ou qui traînent dans les squares, ils sont devenus acteurs. Et je trouve ça génial. Alors, c'est parti d'une idée que ben, le quartier lui-même décide du type de festival, du type d'expression. C'est les gens, c'est des réunions, on n'en peut finir. Voilà, on discute, on tchatche. Et c'est en fonction de ça qu'on dit, t'es l'artiste, tu vas aider les gens à l'expression des jeunes, à l'expression des femmes, à l'expression des marginaux de drogue, etc. Voilà, j'arrête là. Ouais, là, d'accord ?
Acteur, pas forcément artiste. Acteur.
Non, c'est plus beau que ça. D'acteur, c'est on joue. Artiste, c'est je mets ma vie en jeu et je dis et ça donne de la beauté, hein. Ah oh, voilà, on va pas se bagarrer là-dessus. Ouais. Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit joli et puis il faut que les gens soient se sentent. Bah, ils sont fiers, quoi. La sortie, c'est quand même important d'être fier dans la vie de temps en temps. Non.
Il y a un terme qui est revenu plusieurs fois. Moi, je voudrais que maintenant, on s'arrête un peu là-dessus. C'est le terme de responsabilité publique. Alors, la responsabilité en général, ça veut dire qu'on doit répondre de ce qu'on fait. C'est ça, l'idée de responsabilité. C'est qu'il y a un moment où il va falloir passer, non pas évidemment à une évaluation, mais à une appréciation de l'autre. C'est ça d'ailleurs qui fait le lien social, c'est pour ça que c'est tellement politique, une appréciation de l'autre dans laquelle si jamais on a eu tort, on a créé un dommage, on a mal utilisé les moyens qu'on avait, il faudra répondre. Alors, c'est vrai, Bernard disait tout à l'heure, et je crois que c'est ça la responsabilité de l'artiste, lui il laisse des traces. Le politique, malheureusement dans nos systèmes, le seul moment où il rend des comptes et où sa responsabilité est mise en jeu, c'est le moment de la réélection. Et ça, c'est assez dommage parce que, comme vous le savez, par tout un jeu très complexe du droit, le politique très rarement, rend compte de son action devant un tribunal. Le problème de notre société, ça a été évoqué tout le temps dans le débat, hier, aujourd'hui, etc., c'est évidemment que les responsabilités sont diluées dans des chaînes de comportement. Et c'est d'ailleurs ça qu'on appelle la responsabilité publique aussi, parce que ce n'est pas une seule personne, c'est le Conseil général, et nous avons bien vu que derrière le Conseil général, il y a toutes sortes de facteurs déterminants, etc. Alors moi, je voudrais revenir là-dessus, d'autant plus que ça nous mène tout droit à l'international, ça, et que dans les questions qui m'avaient été posées par les petits papiers, il y en avait une très large qui rappelait qu'en 67, Pierre Mendès France avait préconisé la modification du système mondial en remplaçant les bons or et dollars par les produits de base, le riz, le café, le pétrole, etc. Mais, ajoutait mon interlocuteur, problème, comment faire parvenir l'argent récolté aux producteurs? Les coopératives du tiers-monde sont souvent dirigées par des petits rois. Alors, cette question renvoie à cette difficulté très grande. Comment distinguer les responsabilités individuelles de chacun d'entre nous, y compris des politiques, de la responsabilité collective dans la conduite des politiques publiques? Et là, nous sommes devant des problèmes d'une difficulté extrême que je voudrais rappeler, puis après, on va prendre un exemple concret. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, parce que moi, je suis obsédée par la question de la montée des armements, mais je crois que c'est une bonne obsession. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu une pièce absolument superbe qui s'appelle « Les marchands » de Joël Pommerat. Tu avais vu ça? Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en deux mots, l'argument de la pièce, c'est une histoire de gens qui sont tous dans le même pays, accrochés à l'usine du coin, qui est une usine d'armement. Tout le monde travaille là. Et on voit se nouer les rapports sociaux entre les gens avec la menace et la crainte du chômage. Et donc voilà, on vient leur annoncer que l'usine va fermer. Et l'une des femmes, dans son désespoir, pense qu'il n'y a qu'une solution pour empêcher la fermeture de l'usine, c'est qu'elle jette son petit garçon par la fenêtre. Donc vous voyez le niveau de dramatisation. Et donc elle le fait, ça ne sert évidemment à rien, ça crée un peu d'émotion. Et puis à un moment de la pièce, on entend le bruit d'une énorme escadrille dans le ciel. Et là, soulagement général du groupe, il y a la guerre. Donc l'usine ne fermera pas. Voilà. La fable est terrible. Hein. Elle est terrible, mais elle est vraie. Et donc, qui est responsable de cette dérive du monde d'aujourd'hui dans des moyens de violence qui, tôt ou tard, sont utilisés? Quand on fabrique des armements, ça n'existe pas qu'ils ne soient pas utilisés. Et d'ailleurs, quand on en a trop en stock, on fait une guerre pour purger les stocks. C'est en partie ce qui s'est passé au Liban. La guerre qu'Israël a faite au Liban, Israël y a été poussé par les États-Unis parce qu'on avait des nouvelles générations d'armes et de munitions et que donc on n'avait plus de place pour mettre les nouvelles choses. Il fallait vider les vieilles choses et plutôt que de les jeter, il valait mieux les utiliser. Donc on fait une bonne guerre au Liban, ça vide les entrepôts et après on peut les remplir avec autre chose. C'est aussi cynique que ça. Alors, nous vivons là-dessus. Ça, c'est un problème que les syndicats connaissent bien, d'ailleurs. Et qui va pousser l'éthique universelle jusqu'à se dire « il ne faut plus d'armement, sacrifions nos emplois ». Alors, bien entendu, on ne va pas sacrifier les emplois, c'est la reconversion. Mais qui va avoir le courage d'entrer dans la problématique de la reconversion? C'est un problème majeur, absolument majeur. Et c'est la responsabilité collective, publique. Mais en même temps, comment on fait pour dénouer les chevaux? Qui on va accuser? Devant quel tribunal? Il en faudrait pourtant. Et cette question de responsabilité collective, nous les juristes, on la connaît bien, elle est très difficile parce qu'en droit international, maintenant qu'on a réactivé des notions qu'on avait mises au frigidaire après Nuremberg, à Nuremberg, on a dit crime contre l'humanité, crime de guerre, crime contre la paix. C'était un tribunal ad hoc, on a jugé quelques nazis, pas beaucoup, on a fermé le tribunal. Et naturellement, l'Assemblée générale des Nations unies a dit « Mais non, on ne va pas rester là, il faut une cour mondiale pénale qui fonctionne en permanence. » On a mis 50 ans avant de reprendre le projet et on a accouché difficilement de ce que vous savez, les deux expériences des tribunaux pénaux internationaux et l'expérience de la Cour pénale mondiale. Mais la Cour pénale internationale, elle a été créée par traité. Et un traité... c'est un contrat. Et un contrat, ça a un effet relatif. On n'est jamais obligé de signer un contrat. On le signe si on veut. Donc, il y a des quantités d'États qui n'ont pas signé, dont les plus gros et les plus méchants. Ce qui fait qu'ils sont bien à l'abri, puisqu'ils n'ont pas signé le statut de la Cour pénale. Ils n'iront jamais devant. Personne de chez eux n'ira jamais devant. Donc vous voyez bien qu'il y a une erreur complète de méthode. On utilise l'outil de la relativité, qui est le contrat, alors qu'on veut aller vers quelque chose d'universel, punir tous les crimes contre l'humanité et tous les crimes de guerre. Donc on échoue. Donc il faut corriger l'erreur. Donc il faut passer à la communauté politique universelle qui se dotera d'un droit obligatoire. On n'y est pas. On n'y est pas. Et alors cette affaire d'action collective, de chaîne de responsabilité, elle est terrible. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a rencontré ça très fortement, notamment dans une des premières affaires qui était jugée, je crois, dès la première année d'ouverture du tribunal, qui est très connue dans les milieux de juristes, qui est l'affaire Erdemovitch. Je vous la dis en deux mots parce qu'elle est terrible. Erdemovitch, il était cordonnier savetier à Belgrade, marié à une croate, donc il n'était pas sur la purification ethnique. Il avait un bébé de 9 mois. Et il était dans l'armée serbe. Et un matin, on lui dit, et comme à tous les gens de son régiment, montez dans les camions, vous avez une opération à faire là-bas, en Bosnie. Ils arrivent et on leur dit, il va arriver des camions avec des paysans, vous les mettrez le long du mur et vous les fusillerez. Et Erdemovitch dit, non, moi, je ne fais pas ça. Il dit à ses chefs, je ne fais pas ça. Et le chef lui répond, tu fais pas ça ? Eh bien, tu poses ton fusil et tu vas contre le mur avec les autres. Erdemovitch avait envie de vivre. Il va vers ses camarades espérant un mouvement collectif. Et il leur dit une phrase, je pense qu'il faudrait qu'un jour un grand homme de théâtre fasse une pièce avec ça. Parce qu'il va vers ses camarades et il leur dit, mais vous allez faire ça, vous êtes donc fous. C'est-à-dire que pour lui, la folie est bien là-dedans. Les camarades détournent le regard, personne n'est prêt à la révolte, et on tue toute l'après-midi. Erdemovitch dit qu'il en a abattu 70 environ, je ne sais plus très bien. Il rentre à Belgrade avec son camion militaire, et le soir, il est complètement hagard, il va à l'ambassade des États-Unis, et il se livre en disant « Je me livre à la justice internationale, je suis responsable de crimes contre l'humanité ». Il est immédiatement transféré à La Haye, où il est jugé. Il est jugé, et alors comme dans la procédure au tribunal pénal international, c'est la procédure américaine accusatoire, dès lors que quelqu'un dit « je suis responsable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité », on prend sa déposition. C'est bon, c'est fait. On vérifie simplement qu'il soit sain d'esprit, donc là on l'a laissé se reposer pendant 3 mois, parce qu'il était quand même un peu mal. Puis au bout de 3 mois, il a redit la même chose. Il ne savait pas, il ne connaissait pas les catégories juridiques. Lui, il a employé des mots qu'il avait entendus à la télé. Donc on l'a jugé, on lui a collé 10 ans. Et puis quand même, les avocats se sont emparés de son affaire, ont fait appel pour lui. Et en appel, on a ramené à 5 ans, sous l'influence d'un juge que je connais bien, qui est un Italien, qui a fait d'ailleurs une note à cet égard sur l'état de nécessité. Comment pouvait-on imputer à Erdemovitch la responsabilité des morts qu'il avait fait et de ce massacre dans les circonstances qu'il avait racontées ? Alors, je raconte cette affaire parce qu'elle est terrible, mais elle est extraordinairement emblématique de la difficulté où nous sommes, nous les humains, et nous les juristes encore plus, naturellement, pour essayer de démêler cet écheveau-là, comment on fait pour imputer les responsabilités aux uns et aux autres. Alors, à cet égard, on a la chance d'avoir avec nous des amis du ZES depuis longtemps, Marinette et Jean-Claude Collin-Hervé, qui habitent Nantes et qui ont participé à la fondation d'un collectif anti-marée noire, une coordination anti-marée noire. Et à ce titre, ils ont fait partie de ces associations qui se sont portées partie civile dans le procès de l'Erika, qui n'est pas encore jugé. Le jugement sera rendu en janvier 2008. Mais quand on s'est téléphoné, ça les a un peu décidés à venir, je dois dire. Voilà, ils sont là et je serais contente, si vous en êtes d'accord, qu'ils viennent. Marinette, vous venez, vous serez gentille. Qu'ils viennent parce qu'ils ont à nous parler d'une expérience tout à fait unique et au cœur de ce que nous disons là depuis 2 jours. Alors, avec toutes les difficultés du problème, parce que je crois qu'un problème comme l'Erika résume une masse de choses absolument considérables. D'abord, tout simplement, qui gère les territoires ? Parce que la haute mer, les bateaux, ils circulent en haute mer. La haute mer, elle n'est à personne. Donc déjà, première difficulté, hein, comment va-t-on appliquer du droit à des choses qui se passent sur des territoires marins qui ne dépendent d'aucun État particulier ? Bon. Donc, convention internationale, etc., enfin, ça soulève plein de problèmes. Et puis, quand il arrive quelque chose comme le naufrage de l'Erika, et quand des communes, des collectivités de pêcheurs, des quantités de gens sont atteints dans leurs intérêts, dans leur profession, dans leurs moyens de vivre, quand la nature est atteinte, comme elle est atteinte par ces grands naufrages pétroliers, alors comment est-ce qu'on démêle l'écheveau de responsabilité ? Et vous savez que les regards ont été pointés sur Total parce que c'était l'affréteur. Mais derrière tout ça, il y a le désordre qui règne dans les compagnies maritimes de navigation, les titres de propriété, qui est propriétaire du bateau ? Les sociétés qui sont chargées en principe de contrôler l'état des bateaux, les États qui doivent, quand les bateaux relâchent dans les ports, faire des inspections. Enfin, il y a une chaîne de problèmes Et Marinette va nous parler de ça beaucoup mieux que moi. Voilà.
Bonjour, je viens comme simple citoyenne, finalement, qui se sent amenée à porter la parole de beaucoup d'habitants de l'Ouest, mais aussi de beaucoup d'autres citoyens en France ou ailleurs, parce qu'en fait, ce qui a animé beaucoup de gens après le naufrage de l'Erika, c'était pas trop le désir de se sentir plein, mais ce qui animait les gens, c'était la révolte. La révolte parce qu'ils avaient l'impression qu'un droit élémentaire des populations, celui à pouvoir travailler, vivre dans un environnement naturel non pollué, ce droit avait été bafoué. Et bien sûr, dès qu'on pense droit, on pense responsabilité. Qui est responsable? Et je crois que dans les protestations qu'il y a eu dans la grande manifestation de Nantes de février 2000, on sentait que les populations étaient, comme le disait tout de suite Monique, remontées à plein contre Total. Total doit payer, Total doit payer. Et par derrière aussi, on voyait des petites pancartes « L'argent capitaine mène le navire au naufrage ». Donc, il y avait la sensation qu'il y avait des responsabilités et que les problèmes financiers, les problèmes d'argent étaient là. Or, ce qui a outré absolument les populations nantaises et d'autres quand ils ont su la réaction de Thierry Desmarais qui venait à Nantes fin janvier 2000, pour une réunion avec les responsables des trois régions qui avaient été touchées par la pollution, eh bien, Thierry Desmarais a dit « Ah, mais juridiquement, nous sommes tout à fait tranquilles, nous ne sommes pas responsables. Toutes les conventions internationales font que nous sommes inattaquables. » Vous sentez la protestation qui finalement... quelques deux semaines après, a pu jaillir, parce que c'était impensable. On se disait, mais comment? Ils ont affrété, en plein mois de décembre, dans la tempête, un bateau de 24 ans, dont beaucoup de compagnies pétrolières internationales ne voulaient pas. Il avait été réparé, je crois qu'il y a des documents que vous pourrez consulter, parce que j'ai fait un petit texte un peu synthétique là-dessus. Vraiment, on sentait que là, Total était responsable du choix de ce bateau, au moins du choix. Et après, quand nous avons un certain nombre de membres des collectifs, parce que sur la côte, il y avait eu des collectifs de protestation dans toutes les villes, des manifestations depuis Quimper jusqu'au Sable-d'Olonne, quand beaucoup d'organisations, de représentants d'associations on réfléchit à cela. Certains étaient penchés sur les problèmes d'environnement, les oiseaux, mais beaucoup pensaient à quelque chose de beaucoup plus profond. Si on définit des responsabilités, si vraiment on voit des possibilités juridiques pour trouver les vrais responsables et les décourager, peut-être pourrons-nous obtenir une vraie sécurité maritime et éviter que de pareilles catastrophes ne se reproduisent. Alors là, je crois que de 2000 à 2003, notre combat citoyen pour essayer de faire valoir un changement des lois n'a pas été très, très productif. Et je crois que Jean-Claude, tout à l'heure, parlera de toutes ces interpellations que nous avons pu faire à différents niveaux, national ou international, puisqu'il y a eu des délégations à Bruxelles. Il y a eu difficultés certaines. Mais quand on regarde un peu plus près le fonctionnement, justement, de ce droit international, tel qu'il était au moment du naufrage de l'Erika. On s'est dit, si on veut vraiment agir, interpeller, il ne faut pas qu'on vienne simplement avec nos gros sabots, pour moi, les sabots de Bécassine, il ne faut pas qu'on vienne avec des gros sabots, il faut qu'on comprenne comment fonctionne ce monde et savoir qui est responsable, pourquoi Total, en janvier 2000, a dit « nous ne sommes pas responsables ». Donc, on a regardé un petit peu le droit maritime international. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que, eh bien, il y a une organisation maritime internationale qui dépend de l'ONU, qui a mis sur pied des conventions internationales surabondantes, qu'il y a une législation maritime au niveau donc mondial qui est très importante. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'elle est soit pas appliquée, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas ratifié les conventions. Alors là, je fais une petite parenthèse, pas de ratification. Les États qui donnent des pavillons de complaisance, par exemple, ne ratifient pas certaines conventions sur les droits des marins. Et ainsi, les armateurs peuvent facilement aller se faire immatriculer dans tel ou tel pays au total. On s'est renseigné par des informations qui nous arrivaient dans les colloques et tout. Un armateur, en faisant immatriculer son bateau sous pavillon économique, comme ils disent pudiquement, gagne 30 à 40 % sur les frais de fonctionnement d'un navire pétrolier. Donc, évidemment, quel rapport avec l'OMI? Eh bien, actuellement, à l'OMI, les deux tiers des voix sont détenues par des états de complaisance. Donc, ça veut dire que pour obtenir des améliorations de la sécurité maritime internationale, il y a des discussions interminables. Pour une nouvelle convention, 10 ans de discussion, c'est courant. Et quand la convention est enfin votée, il faut qu'elle soit ratifiée par les États qui représentent une grosse majorité, je crois, de la flotte mondiale. Et comme les États de complaisance ne ratifient pas, eh bien, il y a énormément de conventions qui existent et qui ne sont pas ratifiées. Voilà. Donc, je donnerai un exemple. Une convention qui avait été votée en 1996, fameuse convention HNS, etc., sur le transport des produits polluants. Eh bien, je crois que 2 pays seulement l'ont ratifiée. Donc, elle n'est pas appliquée 11 ans plus tard. Donc, ça, c'était nos premières surprises, à savoir que les conventions internationales existaient, mais étaient finalement peu appliquées. Mais il y avait pire. C'est finalement le fonctionnement du système lui-même du transport maritime international. Le système lui-même est fait finalement pour que les règles soient contournées de telle ou telle manière par les uns ou par les autres. Il y a différents acteurs qui jouent dans un transport quelconque. Contrairement à ce qui se passait il y a encore 40 ou 50 ans, un armateur ne s'occupe pas de tout ce qu'il y a à faire pour faire transporter. Un armateur est propriétaire du bateau et après, il délègue à un gestionnaire pour l'entretien technique. Il choisit une compagnie qu'on appelle de manning pour recruter des équipages et en fait il demande aussi à une société, ça c'est normal, qu'il y ait des contrôles, il demande à une société de classification de certifier le navire d'un point de vue de ses caractéristiques, mais aussi ces sociétés de classification certifient le navire du point de vue de la navigabilité statutaire accordée par l'État qui donne le pavillon. Alors, je m'attarderai un petit peu là-dessus parce que bon, c'est un monde foisonnant, ce monde maritime qu'on a appris à découvrir pour essayer de comprendre et agir. Eh bien, actuellement, les sociétés de classification sont des sociétés privées qui ont un double rôle. D'une part, elles ont les armateurs comme clients et d'autre part, elles certifient les bateaux pour les États. Mais comme elles sont sociétés privées et qu'elles se font concurrence, il y a à peu près, j'ai cru apprendre, qu'il y avait 100 de sociétés qui étaient habilitées à donner des certificats de navigabilité sur la planète. Bon, il y en a 30 importantes et il y en a 5 ou 6 qui se font une concurrence acharnée. Eh bien, ce qu'on a pu découvrir, c'est que, bien sûr, dans le privé, on sait ce qui se passe. Hein, quand il y a concurrence, eh bien, c'est le mieux offrant qui va remporter. Donc, pour ce qui est de l'Erika, eh bien, il faut quand même se dire que la société de classification RINA, qui a donné les certificats de navigabilité, au cours du procès, on l'a vu, a eu quelques faiblesses vis-à-vis de l'armateur qui lui demandait un certificat de navigabilité. La faiblesse, c'est que, par exemple, un 23 novembre 1999, un inspecteur de cette société a donné le certificat de navigabilité à l'Erika, l'armateur lui ayant dit « Ah, mais nous avons des engagements commerciaux. » Il y avait une liste, longue comme le bras, de déficiences que le propriétaire de l'Erika auquel il devait remédier dans les 2 mois. Mais 23 novembre 1999, le naufrage de l'Erika, c'était le 12 décembre. Les 2 mois n'étaient pas passés, le bateau avait déjà coulé. Donc, les sociétés de classification, là, on se dit, elles ont quand même une grande responsabilité. Et pour parler plus précisément du procès de l'Erika et des responsabilités que nous avons vues mises en avant par les différents acteurs, on peut être frappé par le fait que dans la législation internationale actuelle, les seuls responsables sont les armateurs propriétaires d'un bateau. Et là, pour le cas de l'Erika, eh bien, le propriétaire armateur, M. Savarez, avait acheté le bateau et par tout un tas de systèmes de sociétés financières offshore, bien sûr, et il avait créé une société spéciale pour gérer l'Erika. Et ça, c'est le coup classique actuellement, à savoir quand un bateau est ancien, on ne fait qu'une seule société pour le gérer, lui. Et si ce bateau fait naufrage, par tout un tas d'artifices, l'armateur fait faillite et finalement, il ne peut plus être inquiété pour verser des dédommagements. C'est son assurance qui paye. Alors, responsabilité, donc, ainsi, totale, a complètement évacué la responsabilité, et comme les autres compagnies pétrolières sur la planète. Pourquoi évacuer la responsabilité? Parce qu'autrefois, je parle un peu de manière décousue, mais vous allez voir qu'autrefois, les compagnies pétrolières étaient propriétaires des bateaux pétroliers. Et à partir du moment où il y a eu des procès qui ont amené des condamnations de compagnies pétrolières, en particulier Exxon a été lourdement condamné après le naufrage de l'Exxon Valdez en 1989, eh bien, à partir de ce moment-là, les compagnies pétrolières se sont complètement désintéressées du transport et ont externalisé. Elles ont vendu leurs bateaux. Et en 1999, on est arrivé à la situation ultime. Le tiers de la flotte mondiale était avec des bateaux de plus de 20 ans. Et finalement, tous les très vieux bateaux étaient gérés avec le système des One Ship Company pour que la responsabilité, finalement, soit complètement évacuée. Alors, bien sûr, dans le cas de l'Erika, là, il y a eu une très longue instruction, donc j'en parlerai pas, mais au moment du procès, le tribunal a quand même bien mis en avant qu'il y avait des responsabilités multiples. Et on s'est rendu compte, pour résumer, qu'il y avait un procès pénal français qui se trouvait aux prises avec une difficulté énorme, c'était d'appliquer du droit pénal français en tenant compte des conventions internationales. Et nous avons vu des avocats des sociétés de classification, surtout cette société RINA, les avocats de l'armateur, du gestionnaire, eh bien, il mettait en avant l'impossibilité pour les tribunaux français de mettre en cause les différents acteurs tels que, logiquement, cela apparaissait. Parce que les conventions internationales étaient en contradiction avec l'application des lois françaises sur l'environnement, en particulier une certaine loi de 1975. Donc on s'aperçoit, comme disait Monique tout de suite, que faire fonctionner le droit au niveau international, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, puisque finalement, là, c'était un tribunal français qui se trouvait coincé entre le droit international et le droit pénal français. Et ça sera une grande première, finalement, le résultat du délibéré, parce que là, il y avait à trancher sur certaines questions pour savoir y a-t-il responsabilité, faut-il appliquer la loi française dans tel et tel cas. Et vraiment, quand nous avons suivi ça, nous avons vu que il y avait là un enjeu énorme, en particulier pour les gens qui possèdent l'argent, à savoir les compagnies pétrolières qui veulent garder leur prestige, et les sociétés de classification qui veulent garder aussi leur clientèle, parce que je vous parlais de la société RINA, là, si elle est condamnée lourdement en janvier, quand le jugement sera rendu, elle disparaîtra, il y a de grandes chances pour qu'elle disparaisse de la scène internationale. Donc en fait, là, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à trancher. J'espère que le tribunal saura trancher. Maintenant, il ne faut quand même pas désespérer. Il n'y a pas que le tribunal. Il y a eu aussi l'action citoyenne. Il y a eu aussi, hélas, la seconde catastrophe, celle du prestige. Et assez curieusement, entre 1999 et 2007, certains prévenus au tribunal mettaient en avant des transformations qui avaient eu lieu suite au naufrage. Alors là, je vais peut-être laisser la parole à Jean-Claude, s'il est quelque part. Voilà. Pour que, justement, il vous dise deux, trois mots sur le fait que l'action citoyenne, les protestations, les interpellations ont quand même inquiété les acteurs du transport maritime. Et on y a été un petit peu pour quelque chose, modestement.
Bon, très modestement. Moi, je voulais revenir sur des choses qui ont été dites tout à l'heure dans un domaine a priori très loin, qui est aussi les soucis financiers liés à une action comme celle que les collectifs ont pu entreprendre. Parce que toutes ces organisations, des petites associations environnementales ou même des grosses, n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent. Les organisations syndicales n'en ont pas beaucoup non plus. Donc, engager des avocats dans un procès qui dure 4 mois, c'est des choses qui sont très onéreuses, très, très difficiles à trouver si on veut effectivement peser réellement sur un débat. Et donc, on est obligé de se tourner vers des financements publics de collectivités territoriales. Et là, on trouve exactement les mêmes problèmes. On trouve des problèmes de... Oui, mais enfin, vous marchez sur nos plates-bandes. Qu'est-ce que vous venez réclamer? Nous, c'est notre domaine réservé. Bon, et donc, on a eu de grosses, grosses difficultés pour pouvoir être présent à ce procès. Et on a été présent uniquement grâce à la, quelque part, la militance d'une avocate qui a bien voulu accepter de travailler dans des conditions qui ne sont pas des conditions normales. Tout au moins pour l'instant. Et donc, on retrouve ces problèmes de contrôle, d'usage des fonds publics, de comment un intérêt général peut être porté, parce que toutes les parties civiles des collectivités territoriales ont été portés sur des problèmes d'indemnisation de dommages, pas vraiment dans la perspective d'amener réellement des changements dans le droit pour faire avancer les choses sur les problèmes de protection du transport maritime. Alors, là-dessus, je voudrais donner, par exemple, deux exemples sur... quelque part, de la communication et de la bonne conscience qu'on se donne. Alors, Marinette a parlé tout à l'heure de la convention HNS 96, là, qui est toujours dans les tiroirs et qui ne sert à rien. Mais enfin, tout le monde est content. On a une convention qui a été acceptée par les États, mais qui pour l'instant n'est pas appliquée et qui n'a quasiment aucune chance d'être appliquée parce qu'elle a un gros défaut. Par exemple, des versements d'arsenic dans les transports, des choses comme ça. Si elle était appliquée, on pourrait remonter jusqu'au fabricant de l'arsenic qui a mis l'arsenic dans les fûts et donc les mettre en cause. Et ça, là, du coup, ça va loin. Ça va trop loin. Donc, elle est inappliquée. On a réclamé, dès le début, la responsabilité des donneurs d'ordre dans le cas du transport maritime de produits pétroliers. Quand on a été voir Madame de Palacio à Bruxelles pour réclamer ça, qui demande ça? Personne. Donc, c'était un sujet hors de propos, hors sujet complet. Bon, il y a eu le prestige, elle était galicienne. C'est devenu effectivement quelque chose à propos. Il faut dire que, et là, c'est aussi des rapports qui comptent. C'est par centaines de milliers de personnes que les Galiciens se sont mobilisés à plusieurs reprises. Il y a eu une manifestation à Madrid entre 500 000 et 1 million de personnes. On a été loin de pouvoir faire ça dans le cas de l'Erika. Ça, il faut le reconnaître aussi. Donc, il y a eu effectivement des directives européennes qui ont été jusqu'au bout, puisque juste avant qu'elles partent, elle a relancé une directive sur la responsabilité des affréteurs en cas de pollution marine. Et cette directive a été adoptée. Elle a suscité d'énormes réactions de la part de tous les grands du transport, alors évidemment les pétroliers, tous les armateurs, même les assurances, les Lloyd's aussi. Et ils ont fait un procès à la directive à un tribunal de Londres. Et ils ont quelque part gagné. Alors le tribunal s'est déclaré évidemment incompétent, puisqu'il n'avait pas à juger d'une directive européenne. Il a donné raison aux plaignants. Et il a transmis la plainte à la Cour de justice européenne, qui devrait rendre son arrêt sans doute incessamment sous peu. Et on est dans un cas de figure assez paradoxal. On a une directive européenne qui est contraignante, puisque maintenant le délai de mise en œuvre est passé depuis le début mars 2007. Aucun pays européen ne l'a encore ratifié. Donc c'est quelque chose qui s'applique mais qui ne s'applique pas, enfin qui ne s'applique dans aucun pays, puisque aucun pays ne l'a ratifié, et qui est sous la menace d'une décision de la Cour de justice européenne qui peut l'invalider. Et si la Cour de justice européenne l'invalide, quelque part, ça revient à dire que l'Union européenne ne peut pas légiférer en matière économique, en mettant en cause les intérêts économiques des grands groupes. C'est le fond de jugement qu'il y aura. Et donc, on est aussi, dans le cadre du procès, tel que je l'ai vécu, puisqu'on a assisté à toutes les séances, c'est une des choses qui est quand même les plus frappantes, c'est de voir à quel point l'idéologie ambiante, l'idéologie dominante, traverse les prétoires, comment il est effectivement tout à fait normal, tout à fait logique de construire des sociétés offshore pour échapper à l'impôt, pour ceci, pour cela. On nous raconte comment, quand on passe une commande en le payant à Malte, où on n'est pas obligé d'avoir une comptabilité, on a des rabais de 40%. Enfin bon, il y a plein d'histoires de ce type-là qui semblent tout à fait normales, tout à fait évidentes, et qui, quelque part, correspondent aussi à un fait, c'est que s'il y a des instances internationales, il n'y a nulle part aucun gendarme international chargé d'appliquer des engagements pris par les États. Et donc les États peuvent signer quelque part n'importe quoi, c'est simplement leur bonne foi, leur bonne parole, ils appliquent pas, mais souvent ils n'appliquent pas. Et donc se pose le problème quelque part citoyen, comment on peut construire à une échelle internationale, quelque chose qui puisse contraindre un certain nombre d'États à faire quelque chose. Alors, le dernier point que je voudrais signaler, parce que c'est quelque chose... c'est un détour curieux, mais intéressant. Ce sont les Américains. Ils ont été évidemment très choqués par les attentats du 11 septembre. Ils se sont bien rendus compte qu'un porte-container, ça pouvait transporter n'importe quoi. Ça arrive dans les ports, donc il peut y avoir des attentats épouvantables. Et donc, ils se sont préoccupés de la sécurité maritime, mais dans l'aspect sûreté. Et donc, ils ont bien vu qu'il y avait un vrai problème là dans le transport maritime. Et à travers l'OCDE, ils ont fait des études pour savoir si finalement leur loi concernant la gestion des entreprises ne pouvait pas être étendue au monde maritime. C'est-à-dire, quand on a une entreprise aux États-Unis, tous les actionnaires sont connus et traçables. Donc, dans le transport maritime, est-ce qu'il était possible de faire la même chose? Parce qu'à partir de ce moment-là, il est possible de savoir, bon, ben, s'il y a un problème avec un bateau, bon, ben, on connaît l'origine du bateau et on peut prévoir, contrôler, essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, là, il y a eu une étude, et qui est en fait la plus belle étude que j'ai jamais connue, qui a été réalisée par l'OCDE, sur le système des pavillons de complaisance. Et ils ont dit, ben, on peut faire ça, il n'y a pas de problème, mais il y a une seule chose qu'il faut supprimer. C'est le problème de l'action porteur. Alors, l'action porteur, qu'est-ce que c'est? C'est un bout de papier qui dit que celui qui l'a en main, c'est en fait lui le vrai propriétaire. Et donc, ce bout de papier, il passe de main en main. Ça peut être n'importe quel homme de paille, ça peut être n'importe qui, mais c'est lui qui a le papier, c'est lui qui est propriétaire. Et c'est le système qui permet effectivement de blanchir de l'argent, de passer, de cacher des propriétés, et qui est complètement protégé par les pays qu'on appelle les paradis fiscaux, les paradis judiciaires. Et donc, l'OCDE a posé la question aux États. Est-ce qu'on supprime ce système-là? Parce que si ce système-là est supprimé, il y a possibilité de savoir qui est propriétaire et où ça va. Et les pays ont rendu leur conclusion. Eh bien, non. Parce qu'à certains moments, ça peut être utile d'avoir des actions politiques qui ne doivent pas être connues et dont on ne connaît pas l'origine. Et donc, ils ont arrêté cette piste qui était effectivement la piste du contrôle un petit peu de la gestion du transport maritime. Et je pense que là, il y a effectivement quelque chose d'intéressant à creuser et à voir, parce que pour des intérêts, alors là, qui sont clairement non avouables, parce que ce que l'on voulait garder, c'était en fait la corruption, c'était le blanchiment d'argent, c'était, enfin bon, toutes les dérives criminelles du monde financier que l'on voulait cacher, et donc qui permettent aussi d'avoir un transport maritime qui est de plus en plus pourri.
Oui, je suis très, très contente que nous ayons là des travaux pratiques formidables sur tout ce qu'on évoque depuis hier. Moi, je voudrais... Vous avez sans doute des questions à poser à Jean-Claude et à Marinette Colin-Hervé. Moi, je voudrais dire deux ou trois toutes petites choses. Vous dites les juges, on sent que l'idéologie contemporaine de l'argent est dans le prétoire, etc. Il y a un problème de nomination des juges. Je ne sais pas si on sait bien dans le grand public que nous avons une école nationale de la magistrature qui forme les gens, qui les forme bien. C'est un concours, donc ils sont sélectionnés sur des bases démocratiques du mérite. Et ensuite, ils reçoivent un enseignement qui est un enseignement technique, juridique, de bonne qualité. Sauf que il y a des juges qui sont nommés au tour extérieur. Et il y a quelqu'un qui se trouve occupé actuellement l'emploi de garde des Sceaux, qui fait partie des juges nommés de cette manière. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ce nombre... C'est vrai dans tous les corps, hein, les grands corps de l'État. Vous avez au Conseil d'État des gens qui sont nommés au tour extérieur parce que le pouvoir a toujours eu envie d'avoir quelques strapontins à distribuer. Et quelquefois, c'est pas si mal. Ils peuvent le distribuer à des gens qui, dans leur carrière, se retrouvent tout d'un coup à un moment où ils peuvent occuper ce genre d'emploi. Mais pour les magistrats, cette affaire de nomination au tour extérieur, donc des gens qu'on va aller chercher qui n'ont pas eu la formation de l'École nationale de la magistrature, qui sont des gens qui ont une formation d'avocat ou une pratique du droit, peu importe, et que tout d'un coup, le pouvoir va nommer comme juge. Simplement que je n'ai pas pu avoir les statistiques exactes, mais des amis magistrats m'ont dit que le nombre de magistrats nommés au tour extérieur a considérablement augmenté depuis une dizaine d'années. Or, ce sont des nominations politiques, évidemment. Et donc, c'est ça qui a petit à petit transformé la mentalité de notre corps judiciaire. Voilà une chose à quoi les citoyens doivent s'opposer, c'est-à-dire qu'il faut en parler, il faut le dire, il faut exiger de voir les chiffres, il faut exiger de savoir comment ils sont nommés, ces gens-là, qui est nommé, sur quel dossier, comment les dossiers sont examinés. C'est ça que nous devons exiger de la part de nos politiques. Deuxième petite chose, mais importante, je crois, si j'ai bien lu les comptes rendus, j'ai lu rapidement, que la société RINA invoque dans ses écritures devant le tribunal l'immunité de juridiction, parce qu'ils sont italiens. Alors ça, c'est très intéressant. J'ai un autre cas dont je m'occupe actuellement. Je voulais en dire un mot hier, mais je n'ai pas eu le temps. Vous savez qu'à propos d'Israël, il y a un tramway qui est construit pour aller des colonies de peuplement au centre de Jérusalem, et ça traverse entièrement la Cisjordanie. Il y a deux entreprises françaises, Alstom et Veolia, ce n'est pas n'importe lesquelles, qui ont remporté le contrat. La France était très contente. L'ambassadeur de France est allé sabler le champagne dans le bureau de Charonne. Vous vous rendez compte, la France avait emporté le contrat du tramway qui renforce la colonisation, contraire aux conventions de Genève, illicite en droit international, etc. Alors, des associations, c'est ça la citoyenneté en marche, hein. Des associations qui défendent les droits des Palestiniens en France ont trouvé des avocats magnifiques qui acceptent de travailler sans se faire payer. Et on a porté ça devant le tribunal en France. C'est des entreprises françaises domiciliées en France. Mais immédiatement, elles ont soulevé l'immunité de juridiction d'Israël en disant, en réalité, nous avons signé ce contrat avec Israël. Israël n'est pas présent au procès. Israël bénéficie d'une immunité de juridiction. Donc, vous n'allez pas être compétent. Alors là encore, on n'a pas le résultat. Ça va être tranché dans quelques mois. Mais c'est quand même intéressant. Et les avocats vont répondre à immunité de juridiction. Ouais, un État a une immunité de juridiction quand il agit sur son territoire. Là, l'État d'Israël n'est pas sur son territoire. Il n'est pas un État, en l'occurrence. Il est une puissance occupante qui occupe un territoire qu'il n'a pas le droit d'occuper. Donc, on va voir ce que va répondre le tribunal. Mais je fais le parallèle parce que la question des immunités de juridiction, elle est terrible en droit de la responsabilité. Hein, les États bénéficient, ce sont les scories de la souveraineté. Je crois que si, parce que c'est vrai qu'il y a dans l'opinion publique l'idée à la souveraineté, d'abord souverain, ça veut dire majestueux, tout le monde a envie d'avoir une couronne sur la tête, donc ne nous enlevez pas la souveraineté. La souveraineté, c'est notre indépendance, c'est notre histoire, c'est notre gloire. Oui, je suis sensible à ça, moi aussi. Simplement que si on analyse la souveraineté comme concept juridique et politique dans ses conséquences d'aujourd'hui, on trouve des scories qui sont tous les blocages qui empêchent la société mondiale d'aller vers la réflexion sur un bien commun, la justice internationale, etc. Et les immunités de juridiction, ça en fait partie. Je suis un État, je ne vais pas devant les tribunaux. J'y vais quand je veux, hein, plus exactement. Donc voilà, je voulais ajouter ces quelques remarques. Jean-Claude, encore un mot, puis peut-être que la...
Non, mais juste un mot sur l'immunité de juridiction, parce que c'est effectivement quelque chose d'important. D'autant plus qu'une société de classification l'a revendiqué, non pas pour être l'émanation de l'État, mais pour agir par délégation de l'État. Donc ça va encore beaucoup plus loin. Et donc si, alors ça n'a pas été refusé, ça a été joint au fond, et donc on verra en janvier ce que le juge en aura retenu. Le tribunal en aura retenu, mais c'est un problème qui est extrêmement, extrêmement grave. Quelque part, alors là, j'ai pas d'avis juridique suffisamment pointu sur la question, mais ça m'ennuie beaucoup. Je sais pas si c'est pas quelque part l'instruction qui a pas été très très performante sur ce sujet-là. Il n'est pas certain quand même que Malte, qui a obtenu, enfin l'autorité maritime maltaise, qui a obtenu l'immunité de juridiction dans le cadre du procès. Aurait pu l'avoir si on avait défini cette autorité maltaise comme quelque part, elle agit effectivement par délégation d'un État, mais elle a une activité commerciale. Et une activité commerciale n'a pas l'immunité de juridiction. Et attribuer un pavillon, c'est une activité commerciale. Et donc là, c'était peut-être un problème de présentation du dossier qui a fait que l'autorité maritime maltaise s'est précipitée dessus, a obtenu l'immunité de juridiction. Maintenant, il y a d'autres cours de justice à Hambourg qui pourraient effectivement dire de quoi il s'agit par rapport à l'État de Malte. Mais l'État français n'a pas envie non plus de poser le problème des responsabilités des États, même lorsqu'ils sont défaillants.
Bon, l'heure avance, mais vous avez peut-être envie de poser des questions sur cette expérience très profonde qu'ont nos amis. Hein, parce que vous voyez qu'ils sont... Ils sont extrêmement au courant du dossier. Non ? C'est l'heure de l'apéro ?
De toute façon, si vous aviez envie d'avoir une vue synthétique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, il y a un petit 4 pages qui, justement, montre comment tous les acteurs concernés dans cette catastrophe de l'Erika se rejettent tous les responsabilités les uns sur les autres. Ils sont tous blancs comme neige, si je puis dire, dans une histoire pareille. Et puis, donc, ça, si vous voulez le prendre, nous le diffusons pour votre information. Et si, par hasard, vous vouliez contribuer aux finances de l'association de manière à pouvoir payer un petit peu des quand même notre avocate. J'ai rédigé des chroniques compte rendus chaque semaine depuis le 12 février jusqu'à encore la semaine dernière parce que j'ai eu un moment de fléchissement après le 12 juin, le 13 juin. Donc là, nous le vendons 4 euros. Voilà, merci.
Merci. Je crois que Jacques voulait poser une question et dire encore un petit mot.
Oui, la question, c'est la suivante. Après un débat comme celui-ci, j'y pense encore plus. Maintenant, dans tous les problèmes concrets auxquels on est confronté, on nous répond juridicisation. Partout. Vous voyez ? Et alors, c'est à la fois une chose drôlement intéressante. On voit bien ce qui peut être fait. Mais en même temps, je prends par exemple, sur le plan de la région parisienne, les harcèlements. Quand on fait le bilan des harcèlements qui sont l'objet d'une saisie de la justice, c'est monumental le nombre de gens qui font un dossier. Quand on regarde le résultat du travail au bénéfice des gens qui se sont déclarés harcelés, c'est le minimum minimorum, vous voyez, hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est à l'intérieur de l'entreprise, en discutant avec des syndicalistes, ou même avec des travailleurs non syndiqués, ce qui n'est pas vertu tout à fait, ils seraient syndicalistes, ce serait quand même mieux, mais enfin, ça existe. Eh bien, l'activité contre le harcèlement comme activité militante, elle en a pris un coup. Et moi, je suis hanté par ça. Ça n'est pas vrai que toute la société doive se juridiciser au point de créer un corps de Dieu le Père qui délibérera à un moment et qui tranchera les gens cessant d'être acteurs eux-mêmes de leur propre destin. Je pousse. Mais je suis un peu hanté comme ça. Par exemple, j'ai vu, moi, dans un hôpital américain, le malade rentre, il y a un bureau, il y a un avocat dans le bureau, ou un représentant d'avocat. Il va voir le malade, et il lui dit, est-ce que vous accepteriez que je vous défende si vous arrivez un pépin? Le gars, il dit, bon, enfin, pourquoi? Mais je ne vous demande rien. Mais est-ce que vous acceptez? Je ne vous demande rien, mais si vous arrivez un pépin, oui. Et il lui donne presque une carte routière de l'opération qu'il va subir. Mais le gars qui est malade, moi je me dis, il doit être encore plus malade. Non. Et puis c'est faire rentrer par le couloir la marchandisation des rapports entre le médecin et le malade. Alors, J'ai bien conscience de pousser. Mais c'est vrai, moi, c'est une question qui me hante aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme quand Sarkozy dit, je mets par rapport aux enfants handicapés, ils doivent pouvoir aller à l'école. Et je donne le droit opposable. Je ne suis pas contre la notion de droit opposable. Je suis membre du haut comité des personnes mal logées, la défavorisée, et on l'a avancé pour le logement. Mais maintenant, on va l'avancer partout. Et on aura une société où tout sera un droit opposable, sans que la réalité de la réponse puisse nécessairement aboutir. Alors, c'est à la fois un point d'appui, mais autre chose. Alors, là, en ce moment, si vous voulez, je nage un peu, quoi. Et alors, je profite de que Monique soit là. Si elle pouvait nous dire un petit peu comment elle voit avec son expérience.
Mais la société a besoin de droits. Le droit, c'est le bras du politique. Mais quand le politique s'effondre, quand il y a une crise du politique, le droit envahit tout et c'est très malsain. Je suis tout à fait d'accord avec toi que cette espèce de juridiciarisation générale, ça vient aussi d'une nouveauté dans les mentalités qui est terrible. C'est que les gens se pensent comme victimes avant de se penser comme citoyens. Hein, j'ai droit à ci, j'ai droit à ça. Je suis victime si je n'ai pas la plénitude de mes droits. Alors, effectivement, droit opposable, je vais aller voir à qui je peux les demander. On ne sait pas très bien. Alors, d'ailleurs, le droit ne répond pas du tout à tout ça parce que ce n'est pas fait pour ça, le droit. Le droit, c'est fait pour régler des différends précis qui surgissent entre deux personnes. Et aujourd'hui, le droit est en train de remplacer la politique et la citoyenneté. Et je dois dire que ça va très loin parce que les victimes, maintenant, non seulement, et ça c'est légitime, demandent des réparations quand elles ont subi un tort, mais veulent se mettre à la place du juge et du procureur. Et j'ai eu une conversation incroyable avec un journaliste il y a quelques jours, c'est pas vieux, c'est à propos de la libération de Nathalie Ménigon, parce que c'est vrai que j'avais signé le papier demandant la libération de Nathalie Ménigon, j'étais absolument pour, et le journaliste vient me voir avec un air un peu méfiant et me dit... Ah bon, vous vouliez la libération de Nathalie Ménigon, pourquoi ? D'un air de dire, vous voulez encore qu'on se fasse flinguer au coin de la rue par des actions directes ? Je lui dis, écoutez, je veux la libération de Nathalie Ménigon pour deux raisons. La première, qui est très simple et très facile à comprendre, c'est que je suis absolument contre la prison. Et que moins on mettra les gens en prison, mieux ça vaudra de manière générale. Il y a toutes sortes d'autres choses, les peines alternatives, la réflexion, la réinsertion. Enfin bon, travaillons un peu sur recréer du lien social et non pas exclure les gens et les détruire. Et puis il y a une deuxième raison qui est plus compliquée à expliquer, mais j'ai essayé de lui expliquer, mais c'est là qu'il n'a pas compris. C'est que moi je serais, non pas d'ailleurs pour sa libération, mais pour une amnistie, parce que je distingue toutes les formes de violence et la violence politique... c'est quelque chose qu'une société, à un moment ou à un autre, au bout d'un certain temps, doit amnistier. Parce que si on amnistie la violence politique, une amnistie donnée par le Parlement, parce que quand on amnistie la violence politique, ça veut dire qu'on est capable de dépasser le conflit politique. Alors, il a eu beaucoup de mal à comprendre ça. Et il me dit, ah oui, mais alors, et les victimes ? Pour les victimes, vous vous rendez compte, le fait qu'elles sortent ? Mais j'ai dit, qu'est-ce que les victimes ont à voir là-dedans ? Mais les victimes, elles avaient bien quand même le droit d'exiger que Nathalie Ménigon reste en prison. Je dis, mais monsieur, vous faites un contresens énorme. Les victimes n'ont absolument pas exigé la prison. Heureusement, c'est le procureur qui demande la prison. Les victimes, leur rôle n'est pas dans le procès pénal. Il est dans le procès civil. C'est pas la même chose. Dans le procès civil, oui, on a subi un tort, on va devant le tribunal. Et au civil, en se portant partie civile. On demande des dommages d'intérêt, réparation d'une manière ou d'une autre. C'est une chose. Autre chose est que la société, par la voix de son procureur et de ses juges, décide que certaines actions méritent des sanctions pénales. Mais ce n'est pas les victimes qui ont droit aux sanctions pénales. C'est un besoin de la société, à mon avis très mal posé aujourd'hui, qui fait qu'on va vers cette direction-là. Eh bien, je ne me suis pas fait comprendre. Je suis sûre que je ne me suis pas fait comprendre. Et j'ai trouvé ça terrible, parce que l'idée que la victime, au fond, avait son droit à la vengeance, elle était là. Elle était là. Et donc, il y a aujourd'hui une espèce d'envahissement de la notion de victime et de ses droits. Et je fais attention à ce que je dis, parce que je respecte les droits des victimes, naturellement. Hein. Dès qu'on est confronté à des gens qui ont subi des trucs terribles, on voit bien que c'est une nécessité. Mais nous devons poser le problème politiquement et corriger cette dérive actuelle. Voilà. Jacques, tu voulais encore dire un mot?
C'est juste trois petites remarques, mais pas pour ouvrir une discussion, sur les trois dernières interventions sur la culture. Il y en a une qui est, où quelqu'un disait, il faut aussi que dans le compte-rendu de votre travail, vous nous donniez, comment dirais-je, et en tant que responsabilité, un peu ce que vous avez obtenu, n'est-ce pas, hein? Et après, Luba est intervenu, et ça tournait autour de l'évaluation. Alors, je voudrais dire un petit mot sur l'évaluation, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une tentative, à travers l'évaluation, donc d'une manière insidieuse, de tout contrôler. Mais la réaction de refuser l'évaluation, c'est à mon avis une réaction archaïque. L'évaluation, si elle est bien traitée, et si celui qui en est l'objet y participe, et même se donne les moyens d'investigation et tout, mais c'est tout à fait important, ça rejoint, comment dirais-je, la démocratie. C'est vrai que maintenant, alors bien sûr, dans le domaine de l'art, c'est tout à fait différent que dans un domaine chiffrable, encore qu'existe-t-il, sauf dans le procès, le profit des domaines chiffrables. Mais je trouve qu'il faut attaquer l'évaluation pour faire soi-même une meilleure évaluation. Mais c'est une grande question démocratique, ça, je trouve. Et c'est une étape dans la démocratie. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est un monsieur qui a expliqué l'histoire de Pleyel. Je trouve qu'il a eu drôlement raison. Mais je voudrais donner une petite information. Moi, je suis au conseil d'administration de l'ensemble intercontemporain. Et vous connaissez la revendication que Boulez a portée, en tout cas, à laquelle il a donné en grande partie son nom, d'une grande salle de musique dans la région parisienne qui faisait l'objet d'une réponse négative de la part de la ville et de la part de l'État. Mais l'Orchestre de Paris avait des besoins. Et il s'est trouvé à un moment une opportunité. Et ce pouvoir qui veut avoir l'air profond et qui ne travaille que dans l'éphémère, dans le présentisme, n'est-ce pas ? Eh bien, il a décidé de se saisir de cette opportunité pour répondre en disant bon, « on sera un peu tranquille avec le reste, voyez-vous hein ?» Mais en fait, il a essayé de donner une réponse, et tout ce qui a été dit, c'est tout à fait juste, et c'est la vérité, c'est scandaleux, mais il reste la question du besoin qui était, comment dirais-je, qui était exprimé. Alors, dans un concert à la Cité de la Musique, Boulez, c'était son anniversaire, alors, donc, il avait dit un petit mot, mais comme il ne fait pas des discours très longs, il avait dit qu'il ne... C'était la seule fois qu'il fêtait son anniversaire en France, parce qu'il dit, à chaque fois qu'on demande quelque chose, on dit non. Alors, du coup, je préférais être ailleurs. Bon, maintenant, il est en France. Et il dit, ben, je veux bien, pour mes 85 ans, être là. Mais à une condition, c'est que la décision et que les travaux soient terminés, de cette salle de musique, comment dirais-je, soit faite. Et Donadieu de Vabre, qui n'en manquait pas une, a levé le doigt. Enfin, si on peut dire, il a pris sa place, il a mérité puisqu'il était ministre. Et il a dit comme ça, je m'y engage. C'est le genre d'engagement qui n'est satisfaisant que pour celui qui l'aimait, n'est-ce pas, hein, et pour celui qui y croit. Bon. Mais vous voyez que c'était lié aussi à cette question-là. Alors, je voulais dire, c'était pour compléter, parce que le reste, c'était très bien de dire ça. La troisième question, c'est celle que le monsieur sur tout le monde est artiste. Moi, c'est peut-être un peu brutal, je ne partage pas cette opinion. Les activités artistiques, c'est une chose, l'art, c'en est une autre. Et si on veut créer un monde de frustrés, il n'y a qu'à partir dans tout le monde est artiste. Et on voit bien en ce moment comment Starac et toutes ces choses-là travaillent, n'est-ce pas ? Et comme je suis en banlieue, qu'il y a beaucoup d'ateliers, de lecture, de chant, de tout ça, et qui donnent des résultats tout à fait passionnants, mais on se garde bien, je dirais, nous, les artistes et souvent les associations, de leur dire « ça y est, vous êtes artiste ». Parce que c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. Et il y aurait même un danger à dire à ça. Parce que quand on regarde la politique telle qu'elle a été menée depuis quelque temps, avec Douste Blasi, son mot d'ordre c'était « les artistes, allez dans les cités ». C'est bien de dire ça. Mais en vérité, pour lui, c'était d'initier une espèce de thérapie sociale, l'art comme thérapie, hein, et comme ça ils feront un travail moral et tout le monde sera content. Fort heureusement, les artistes dans leur masse n'ont pas accepté cette mission qui est absolument aberrante, quoi. Ils y vont comme ils y allaient auparavant, mais ils ont refusé d'être des médecins ou des médecins apparents. Ce n'est pas le rôle de l'art, ça. Alors, je vais dire ça parce que moi, je suis assez dans le mouvement associatif pour savoir quel plaisir que c'est quand des ados et tout ça, ou même des gens dans le besoin et tout ça, participent à des activités. Et dans la déclaration de 48, d'ailleurs, les questions de l'art et de la culture sont abordées comme ça, l'art et la création et l'expression artistique, mais je ne confondrai pas les deux articles. Il y a un risque grave, je trouve, et c'est être rigoureux, du moins je le pense, de dire cela. Et je voudrais pas que dans un festival comme celui-ci, où le lien populaire est authentique, mais pas abouti, et où l'art est, comment dirais-je, constamment renouvelé et constamment avançant, on puisse confondre les deux données. Parce qu'on ne sert pas l'art et on ne sert pas le peuple. Vous voyez, peut-être je suis un peu sec dans mon expression, mais c'est le temps qui me fait être comme ça. Mais pour moi, c'est fondamental. C'est une voie de garage. Elle peut être généreuse, mais elle est une voie de garage. Et dangereuse, pour les deux côtés. Pour les deux côtés.
Merci, Jacques. Je pense que...